Bonjour et bienvenue sur Comic City.
C'est Mig.
Et donc c'est notre 14e podcast de Marvel. Donc comme promis, on va annoncer les résultats du concours qu'on avait lancé il y a maintenant 2 mois, je crois.
C'est possible. Ouais, là, j'ai pas le compte là.
ouais, ça fait 2 mois, c'est ça.
Ça sent les vacances, donc du coup il y a un peu de relâchement.
Voilà. Donc on va annoncer les résultats du concours. Et donc on a eu 8 participation, ce qui est pas mal pour un premier concours. Je m'attendais à un peu moins, donc c'est plutôt cool.
Moi je m'attendais à beaucoup plus. Le gars chiant.
Donc ont été tirés au sort, puisqu'on avait donc on avait 8 réponses et 8 bonnes réponses, ont été tirés au sort Denis Baudouin, Dayan peut-être, je sais pas comment tu prononcerais.
Bah ça va. Dis les deux comme ça au moins t'es sûr.
Dayan, je sais pas trop, je voudrais pas écorcher, j'ai horreur d'écorcher les noms, donc va dire.
Voilà, comme ça c'est toi qui le dis, c'est toi qui prendras toutes les insultes.
Dayan Stverzinski et Yannick Serpo. On va vous renvoyer un mail en vous demandant votre adresse et on vous enverra les lots comme convenu. Voilà. On va prendre dans l'ordre d'arrivée des mails pour c'est-à-dire que on va laisser le choix au premier des 3 tomes en fait et donc Denis aura la, parce que c'est lui qui avait répondu le premier, donc Denis aura la priorité de choisir s'il veut Echo, s'il veut Hellboy ou s'il veut Lost Génération Perdue, voilà, Lost Boys.
Voilà, au moins tu vas y arriver.
Oui, je vais y arriver, oui. Et ensuite on enverra un mail à Dayan et enfin à Yannick avec le choix restant, quoi. Voilà. Rien de neuf Mig depuis cette quinzaine.
Non, ça seront juste les vacances là. Ouais. Faut quand même les avertir que pour le podcast de DC, il n'y en aura pas ce mois-ci. Mmh. On le redira à la fin quand on vous laissera, mais on prend aussi nous des vacances. Un peu de soleil, un peu de repos, un peu d'eau aussi peut-être.
Hein. Ouais, un peu, mais surtout beaucoup de repos.
Voilà.
Voilà, donc mais on revient d'ici un mois, donc pour le prochain Marvel. Non, moi de mon côté, pareil, pas grand chose. J'ai vu Green Lantern First Light, je sais que on est dans le podcast Marvel, mais vu qu'on fait pas de DC, qui est ma foi pas trop mal.
Tu m'as pas dit ça avant.
Pas trop mal au niveau animation, au niveau respect des personnages, enfin en tout cas de leur caractère. Maintenant, au niveau histoire, c'est totalement à chier. Je suis un peu dur, mais je m'attendais à tellement mieux que là j'ai carrément été déçu. Et voilà quoi, moi j'avais pas envie de voir du Green Lantern qui met son armure façon Chevalier Zodiac, enfin son armure, son costume façon Chevalier Zodiac, ni voir des combats à la DBZ quoi. Mais c'est le problème quand on confie des licences américaines à des japonais, donc c'est un petit peu ce qui m'a dérangé dans le film. Sans parler de l'histoire qui n'a absolument rien à voir avec Green Lantern classique. Hein. C'est-à-dire qu'il a sa bague et il est capable de s'en servir comme ça en un claquement de doigts. Mais bon, le film est quand même bien foutu parce que l'animation est vraiment au top et voilà. Les personnages sont plutôt bien branlés, quoi. Comme Kilowog qui est vraiment le Kilowog qu'on connaît, quoi. C'est Sinestro qui est bien arrogant à sa façon. Bref. À vous de voir si vous avez envie de dépenser de l'argent pour ce film-là, qui n'est que pour le moment en import, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de distributeur français, mais des sous-titres français sont sur le disque, donc ça peut être une bonne chose. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai un peu monopolisé.
Voilà, moi tu t'es un peu énervé.
Mais ouais, mais faut pas toucher à Green Lantern.
Non, mais bon, faut voir tout ce genre de trucs, ça soit les films ou n'importe quoi, ouais. Faut voir ça comme une adaptation plutôt qu'un truc fidèle, quoi.
Ben, là où je trouve que c'est vraiment dommage, c'est que le film est sorti le 29 juillet. Aux États-Unis, Donc, aux États-Unis, on est en plein Blackest Night, ça vient de démarrer au mois de juillet. Les gens qui vont découvrir l'univers de Green Lantern avec ce film-là et qui vont se dire ça m'intéresse, j'aime bien le concept, etc. Je vais mettre au comics, je vais essayer pour voir s'ils prennent un numéro dans les bacs. Ils prennent le numéro dans ce moment, ils vont rien piger parce que déjà même au niveau d'histoire, ça n'a rien à voir, quoi.
Mais qu'est-ce que tu veux ? Ils pensent pas aussi long terme, peut-être.
Ouais. Puis bon, faut dire que le scénario était confié à Alan Burnett, quoi. Moi, Alan Burnett, le dernier truc que je me rappelle, c'est les boosts qu'il nous avait écrites sur la JLA il y a 4-5 mois.
Bon, en clair, il te casse les burnettes, quoi.
Voilà, exactement. Je comprends pas pourquoi Jeff Jones n'a pas été mis sur ce Green Lantern. Enfin, je veux dire, c'est Monsieur Green Lantern maintenant. Enfin, bon, bref.
Voilà, ils ont touché à deux trucs, Jeff Jones et puis Green Lantern. S'ils font un truc sur Flash, quoi, que tu... voilà, quoi.
Ça, ouais, c'est à peu près ça.
Donc, en clair, ben, s'ils font un Flash et qu'ils le font mal, Hulk... Quoi, non, Steve écrase.
Ouais, c'est ça, Steve smash. Mais non, mais il va y avoir un film de Flash et Jeff Jones est producteur, donc il aura droit de regard, enfin des gens qui ouais. réfléchissent. Mais bon, c'est pour des films.
Attention à ce que tu vas dire, il a un droit de regard, tu vas t'attendre à un truc Superman, peut-être que ça sera tout pourri.
Bah, je sais pas, pour le moment on peut pas s'attendre à quoi que ce soit parce qu'il y a rien d'autre d'annoncé, quoi. Le truc a été annoncé pendant la San Diego Comic Con, donc le temps que ce soit développé, etc., il y a le temps. En revanche, chose bien, c'est qu'on dans les bonus du Green Lantern, on voit pas mal de petits trucs sur tous les autres films de chez DC. Et une assez longue bande-annonce avec un mini making-of, si on peut dire, qu'un petit truc, une featurette qui dure 7 minutes sur le prochain film qui sort cet octobre. Et c'est Superman Batman Public Enemies, donc l'adaptation du numéro 1 à 6 de la série Superman Batman, écrite par Jeff Loeb et dessinée par Ed McGuinness.
Bah, tu vois, je suis sûr que Jeff Loeb il sera super à l'aise.
Ouais, mais alors c'est exactement l'adaptation du comic, donc avec Superman et Batman qui sont bannis par le président Luthor, qui à l'époque était président. Donc voilà, mais en tout cas les images, le peu qu'on a vu et comment ça a été fait, ça donne envie, quoi. Ça donne envie de le voir, et donc là je serai preneur là aussi quand ça sortira cet automne, s'il n'y a pas de retard. Puisque rappelons que Green Lantern devait sortir avant l'été mais avait été repoussé. On verra bien. En tout cas, ça donne envie, quoi. Voilà, bon, je crois que là, j'ai assez déblatéré sur DC pour un podcast Marvel. On va peut-être se mettre à nos reviews, enfin, quand même.
Ouais, bah, c'est comme tu veux, sauf si tu veux parler encore. Hein.
Non, je crois que ça va. Là, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, je crois. Ok, donc on va commencer tout de suite avec le Spider-Man numéro 115. Alors le magazine peut être décomposé en deux grosses parties. Il y a la première partie qui est la fin de l'arc New Ways to Die, donc avec Amazing Spider-Man 571, 572 et 573. Il reste une deuxième partie pour Secret Invasion, on en parlera tout à l'heure. Pour les trois, le scénario est de Dan Slott, les dessins sont de John Romita Jr. et l'ancrage est de Klaus Janson. C'est la conclusion de l'arc et moi je trouve que ça termine aussi bien que ça a commencé, en fait. Même s'il y a quelques petites longueurs.
Non, moi j'ai bien aimé. Moi j'ai trouvé ça super sympa, quoi. Au contraire, là ça faisait aussi un moment que Spider-Man c'était pas aussi bon, même très très longtemps. Et puis bon, moi j'étais étonné par tous les petits trucs qu'ils avaient mis en place, même des trucs un peu nuls, genre menaces, etc. Que là,
ils prennent
un peu un sens. Voilà. Genre fric, le personnage raté, qu'au moins là il prend un certain sens, on va dire.
Bah, disons que je sais pas, enfin, par rapport aux premières fois où j'avais vu fric dans les pages de Spider-Man. Là, avec l'explication de Norman Osborn qui fait qu'il peut pas mourir, enfin ouais, qu'à chaque fois il va trouver un moyen pour s'adapter, etc., ça m'a rendu le personnage un peu plus menaçant.
Bah, pas menaçant, mais au moins si tu veux, bah.
Dangereux.
Ils l'ont recyclé pour faire quelque chose d'intéressant dans l'histoire. Genre, c'est un peu la. Bah, c'est l'arme ultime, ça peut tout guérir, ça peut créer tous les vaccins, quoi, tous les poisons du monde. Donc d'un côté, j'étais là, ça fait ah bah tiens, un personnage pourri du genre junkie qui servait à rien du tout. Ils en ont fait un truc bien. Et menace, d'un coup, bah, il prend un petit peu plus d'ampleur dans mon estime, tu vois.
Ouais, bah on se demande toujours qui c'est, quoi. Parce que, honnêtement, le coup de Harry Osborn, c'est trop facile.
Ça pourrait être ça, mais...
c'est trop facile.
Après... Moi, en tout cas, non, moi j'ai bien aimé que ces petits éléments qu'avant j'aimais pas, que ça prenne un peu plus d'importance, puis qu'au contraire, maintenant, ça devienne un truc vraiment sympa, quoi.
On a aussi le comment il l'appelle dans le... Dans la BD, enfin en tout cas en anglais, il l'appelle le Venpion, je sais plus quoi, le Venpion.
Là c'est le Ven, ouais, je crois que c'est un peu préparé, le Venopion, je crois, un truc comme ouais. Ça. Venorpion.
Ouais, Vénorpion. Ah putain, c'est ça, Vénorpion. Ouais, enfin franchement, moi j'ai trouvé ça un peu naze quoi.
C'était juste pour dire qu'avec le venin qu'il avait, voilà, lui remettre ce genre de costume, ok, mais d'un autre côté, il aurait pu le faire avec le symbiote même quoi.
Ouais. Enfin je sais pas, je pas trouvé ça super transcendant comme fait que Venom et le costume du scorpion, enfin une armure en forme de scorpion avec le dard quoi, en sachant qu'il peut très bien se la faire avec le Venom lui-même quoi.
Bah c'est pour ça il aurait pu prendre le poison que Norman avait créé avec Frick là pour faire lui-même ça avec le symbiote, mais c'était soi-disant pour maintenir la cohésion, je sais pas quoi, parce qu'il était un peu faible. Ouais.
Ouais, enfin je trouvais que ça faisait un peu gadget.
C'est facile.
Ouais, voilà.
Par contre le seul truc que moi j'ai trouvé ça un peu que je continue à trouver ça un peu nul, c'est que ouais, John Romita Jr. il a toujours du mal avec la coiffure de Norman quoi. Bah,
justement, j'y ai fait attention, j'allais y venir. J'ai remarqué en fait que pour la coiffure Norman Osborn, l'épisode 571 ça allait, l'épisode 573 ça allait, mais le 572 on avait encore une fois une coiffure qui changeait de case en case.
Bah, en fait le problème c'est que c'est par rapport aux angles de vue et à la distance. Quand c'est près ça va nickel, dès que c'est loin c'est la merde.
Bah, je l'ai trouvé, moi, je te dis, je l'ai trouvé constant sur le 571 et le 573. Ce qui fait que ce que je commence à me demander, c'est si c'est bien lui qui a tout dessiné pour le 572, puis l'épisode d'avant, donc le 570, où ça couillait, quoi.
Ouais, mais là, c'est vraiment un truc assez c'est flagrant, je trouve. C'est surtout ça, quoi, qui est problématique.
Mmh. Bah ouais, il a peut-être eu quelqu'un qui a dessiné pour lui, ou alors il a fait vraiment des esquisses rapides.
Ou alors c'est Johnson qui a terminé. L'encreur qui s'est drogué, je sais pas.
Ah, pourtant, la paire des deux va bien ensemble, quoi. Enfin, depuis des années.
Oui, mais
là, je sais pas.
C'est tellement flagrant. La dernière fois, c'était déjà un peu. C'était très très voyant. Maintenant, ça continue à l'être encore plus, quoi.
Et t'essaieras de revoir les épisodes et t'essaieras de décomposer épisode par épisode et tu te rendras compte que c'est vraiment que sur le 572 que ça couille. Hein. Parce que sur les deux autres.
Il a pas eu le temps. Ça, je sais pas du tout, mais.
C'est possible. Ouais. Sachant que le dernier était un peu plus gros. Pas vraiment un double épisode, mais un petit peu plus long que d'habitude. Peut-être que c'est pour ça qu'il s'est concentré plus sur le dernier, je sais pas.
Puis bon, bah là on se rend compte qu'il est reparti avant, quoi, il est dans la même situation qu'après Civil War, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il est recherché mort ou vif. C'est encore pire qu'avant, en fait.
Ben ouais, enfin, Brand New Day, mais pas vraiment, quoi.
Voilà, donc ce que je comprends pas, c'est que autant les deux, là, l'homme radioactif et puis Songbird, ils ont rien dit, ils l'ont laissé filer, mais...
Bah parce qu'il les a sauvés en fait. C'est surtout pour ça. C'est
oui, mais bon, ils auraient pu quand même le défendre un petit peu envers la presse ou n'importe quoi. C'est là où on se rend compte que c'est quand même un minimum des pourris ces deux-là.
C'est le Thunderbolt ça. Et ils travaillent pour Norman Osborn.
Oui, mais bon. Les deux, c'est quand même un peu plus on va dire les plus gentils du groupe, entre guillemets. Mais là, tu te rends compte qu'en fait, non, c'est des gros pourris aussi. Les gens, bon, tu nous as sauvés la vie, vas-y, dégage. Mais bon, on te laisse qu'une journée, après c'est fini, hein.
J'ai été un petit peu déçu par le traitement de Bullseye aussi. J'ai trouvé ça vite fait en fait.
Bah, il est vachement retenu par rapport à tous les Thunderbolts. Si on le laissait faire comme lui voulait, il tuerait tout le monde puis c'est réglé quoi.
Mais justement, le 572 où il pouvait vraiment s'en prendre à Spider-Man et tout, j'ai trouvé que finalement c'était pas si.
Alors, à mon avis, il y a tellement. Moi je l'ai plutôt vu comme une sorte de frustration où il est resté tellement de temps enfermé où il pouvait rien faire. C'est que ça c'était typiquement le truc où il pouvait s'amuser. Donc c'est pour ça, par exemple, il chope le traceur, il lui balance, etc. Pour lui, c'est ses petits jeux comme d'habitude, comme il faisait avec Daredevil. Hein. Daredevil, il aurait pu le buter en deux coups aussi. Ouais. Mais il aime bien jouer. J'ai l'impression que c'est plutôt un petit jeu, quoi, un joueur, plutôt que, il aime bien s'amuser, quoi.
Ouais, peut-être, ouais.
Et vu que, par exemple, c'est un adversaire aussi à sa mesure, ben voilà, quoi.
Ouais. Enfin bon, en tout cas, moi, ça me laissera un bon souvenir, cet arc, quoi. Ça fait du bien dans Spider-Man.
Ah, ça, de toute façon. Bah, j'espère que ça continue comme ça, que ça continue d'être aussi bon quoi.
Et par chance on n'a pas eu le backup qu'il y avait dans le 573 en VO, qui était un truc sur Stephen Colbert qui concourait pour la présidence. Parce que bah, vu que j'avais la VO je l'ai lu et franchement c'est une bouse comme j'en ai rarement lu. Donc,
et t'en lis des bouses hein.
Ça fait toujours plaisir. c'était là je suis content que Panini ait pas publié ça parce que ça c'était vraiment inutile et vraiment pourri surtout. Donc,
pour une fois.
Ça c'est du bon écrémage. Je crois qu'on a fait un peu le tour sur New Ways to Die. On va passer à la deuxième partie du mag. Secret Invasion Amazing Spider-Man 3. Scénario de Brian Reed, dessin de Marco Santucci, et ancrage de Mark Pennington. Bah, c'est pareil, c'est la fin de la mini-série. Il était grand temps que ça s'arrête.
Ouais.
Parce que là, franchement, je me suis ennuyé, quoi.
Bah, autant c'était bien parti au début, autant là, c'était un peu nul, quoi. Je sais pas. Moi, j'ai pas trouvé ça... Le coup du rédacteur en chef qui fait la morale aux Skrulls, etc. Voilà, quoi. C'était drôle, mais sans plus.
Ouais, non, moi, ça m'a même pas arraché un sourire, je crois.
Bah, moi, j'ai regardé ça, puis d'un côté, le Skrull qui veut vraiment le tuer, bah, il aurait tué tout le monde dans la voiture, puis c'est tout. Alors oui, il y a le côté un peu drôle au début de l'épisode où il y a Spider-Man qui fait l'introduction en disant bon bah voilà, c'est un peu incohérent, mais puis même ça c'était nul quoi en fait, non.
Moi, je sais pas, moi, non. La meilleure scène pour moi ça reste la scène vers la fin où Spider-Man discute avec Jackpot quoi.
Avec Grollo. Ouais, où il dit qu'il adore les rousses quoi.
Ouais, voilà.
Donc on sait toujours pas si c'est Mary Jane ou pas quoi.
Voilà aussi ça me paraît un peu facile.
Ouais, mais bon, vu ce qu'ils ont fait avec Spider-Man ces derniers temps, la facilité, ça aurait peut-être du bon à des moments, quoi.
Bah, à voir, parce que, normalement, les aventures de Jackpot, c'est dit à la fin de Secret Invasion, Amazing Spider-Man 3, que les aventures de Jackpot continuent dans l'annuel 35. On verra s'ils nous publient en France.
On verra ça, ouais. Mais bon, là, c'était... Voilà, c'est sympathique à lire, mais sans vraiment sans plus, quoi.
Deux épisodes auraient suffi, je pense.
Ouais, même un seul.
Un gros one shot quoi, un double, tu vois, quoi. Un one
même shot pas, en fait, je crois que ce qui m'a foutu en l'air le plaisir du début, c'est cette course-poursuite un peu minable quoi. C'est-à-dire que le début part super bien avec Jackpot, avec le problème avec le rédacteur en chef, le machin, comme ça dégénère. Et à partir du moment où il y a le super Skrull là qui arrive, là, c'est nul.
En gros, à partir du moment où on rentre en Secret Invasion quoi.
Là, c'est pas question de rentrer en Secret Invasion, c'est que, bah, ça typiquement, tu vois, bah. Non, parce qu'à la limite le Skrull les aurait tous tués ou Jackpot les tabassés. En même temps, t'as Menace qui débarque, tu sais pas pourquoi. Donc en fait, je crois que c'est plutôt les non-sens complètement de l'épisode qui sont un peu nuls. C'est le super Skrull qui dit ouais bon ben allez, il y en a un qui vous sentez tous Spider-Man. Quel est le vrai Spider-Man? Bah tu t'emmerdes pas, tu les tues tous. Bah qui esquivera, ça sera le vrai.
Ah mais c'est ça complètement quoi.
À croire que les super Skrulls, ils les prennent chez les plus abrutis, quoi.
À partir du moment où ils révèlent qu'ils sont des super Skrulls, et c'est à peu près ça, je trouve, dans l'ensemble de ce que j'ai lu de Secret Invasion depuis le début, à partir du moment où ils se révèlent être des Skrulls, ben ils font plus rien, ils sont nazes. Il n'y a aucun plan, aucune stratégie, aucune organisation, c'est du gros bordel, quoi.
Bon, on en parlera, qu'on parlera de Secret Invasion.
Ouais.
Ah bon. Mais c'est vrai que là, cet épisode, en tout cas, puis l'autre d'avant, c'était pas terrible.
Je crois qu'à la rigueur, il ferait mieux de nous faire une mini-série sur Jackpot, ce serait sûrement plus intéressant qu'un tie-in de Secret Invasion qu'on sent qu'il est forcé, quoi.
Bah là, c'est vraiment, bah, c'est du trop forcé, puis bon, bah, ça aurait pu être un truc bien. Alors déjà, ils ont essayé de faire des trucs délire, mais qui ont pas marché pour moi, en tout cas.
Bah, certains trucs m'avaient fait rire dans les deux premiers épisodes, là, je t'avouerai que dans celui-ci, rien, quoi.
Je sais pas.
J'étais peut-être mal luné ce jour-là, ou j'étais peut-être vraiment bien luné les autres jours, j'en sais rien.
Bon, t'es peut-être un gros ronchon aussi, mais... Mais je sais pas, là, ça m'a pas fait... ouais, voilà, non. Voilà.
Ok, bon bah on va passer au magazine suivant, hein. On va pas rester là-dessus 3 heures. Et c'est le Astonishing X-Men numéro 51. Alors, le premier épisode, c'est le Astonishing X-Men Ghost Boxes numéro 1. Deux petites histoires à l'intérieur. Pour les deux, le scénario est de Warren Ellis. La première histoire est dessinée par Alan Davis, ancrée par Mark Farmer. La deuxième histoire est à la peinture et par Simone Bianchi. Pour la première histoire et pour la deuxième, personnellement, j'ai pas trouvé d'intérêt majeur à ça, quoi.
Alors, pour te dire la vérité, le premier, j'ai même oublié. Là, on en parlait il y a peu de temps, là, encore ensemble, il y a quelques minutes. Et ça m'a tellement pas marqué que j'avais oublié. Mais... retenu quoi la deuxième partie qui j'ai trouvé un peu mieux.
La deuxième partie est mieux, ouais. Une version des X-Men qui s'appelle Société X, je crois.
Ouais, ça fait très gentleman extraordinaire,
ouais.
Ça.
Qui est, ouais, enfin. Déjà, les X-Men dirigés par Emma, je trouve ça intéressant comme point de vue. Même si, honnêtement, la véritable raison de Ghost Boxes, c'est une mini-série en deux parties. Donc voilà, on a la première. La véritable raison de Ghost Boxes, c'était pour permettre à Simone Bianchi de terminer ses pages sur Astonishing X-Men, la série régulière. Donc déjà, je vois pas ce qu'il vient foutre à la peinture là. S'il a déjà à peine le temps de terminer la série, pourquoi il vient nous faire chier à pondre 8 pages et prendre encore plus de retard, d'une, même si son histoire est bien. Et deux, si c'est pour nous pondre une mini-série comme ça sur des espèces de réalités parallèles à deux balles, parce que bah, la première histoire est vraiment mais moisie, quoi. on a le fameux sujet X qui rentre dans sa dimension et qui dit qu'il a réussi à vaincre les X-Men. Ouais, ok. Bon, sauf
moi, le seul truc, c'est que moi je trouve que c'est tellement balancé comme ça, sans préparation aucune. On dirait que je me répète comparé à ce que j'avais dit.
Final Crisis, ouais.
Mais là, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que j'ai ouvert le mag en m'attendant, si tu veux, à que ça reparte comme sur le mois passé. Et je commence à lire, puis d'un coup, je me suis dit, mais j'ai dû louper quelque chose, quoi.
Ben, ça donne l'impression que ça donne, mais c'est complètement.
Voilà, et en fait, non, c'est des histoires, ben. Voilà quoi, ou des dimensions fantômes, ou encore une réalité parallèle, ou. Donc je sais pas. Le premier épisode, c'est pour ça peut-être qu'il m'a pas marqué, c'est que c'était tellement irréel, peut-être tellement mal amené. Ah, tellement de choses en si peu de temps.
Puis c'est chiant à lire quoi.
Parce donc je sais pas, moi... Alan Davis, il est un peu baissé quand même, je le mets mieux avant.
Ouais. Non, c'est vrai. On a ça à la dernière minute en disant ouais, il nous faut un fill-in vite, alors on fait une mini-série, tiens, te v'là 8 pages, te v'là un scénario, démerde-toi.
Mais bon, alors non, le premier épisode, dans le deuxième, j'ai plus aimé dans le contexte un peu comme ça, du genre de ligue des gentlemen extraordinaires version X-Men. J'ai trouvé ça sympathique. Et j'ai préféré Bianchi là-dessus que sur Astonishing Normal, quoi, on va dire.
Il est beaucoup plus à son aise, ouais. Avec
ça colle plus avec cette époque-là, avec ce style-là, que l'autre, ou je sais pas. Hein. Moi, je le préfère là-dessus, honnêtement. Moi, qui l'ai trouvé un peu statique sur les autres, là, ça colle parfaitement. Quoi.
Mais bon, le truc, c'est qu'à chaque fois, c'est des petites variations de l'histoire principale. Donc, notamment dans celui par Simone Bianchi, c'est quand il trouve le cadavre en feu. Pour la première histoire, c'est quand il y a le combat contre sujet X qui se déroule pas pareil. Mais ça n'apporte rien. C'est ça le truc, c'est que ça n'apporte absolument rien.
Bon, moi, je te dis, ce qui m'a gêné, c'est que c'était un peu comme ça, sans préparation aucune, sans anesthésie. Donc je sais pas. Alors peut-être que je deviens chiant avec le temps.
C'est moi qui te passe mon côté
rouge. C'est peut-être ça qui me contamine.
Non mais c'est ça, c'est que déjà qu'on nous pond un truc parce que le dessinateur est incapable de rendre ses pages en temps et en heure. Logique vu le travail qu'il fait dessus. Mais bon, voilà, si le mec fait un gros boulot, je comprends que ce soit pas facile à faire en un mois. Mais bon, si c'est pour nous pondre un truc qui n'avance à rien et qui ne sert à rien, autant s'abstenir et pas sortir de publication pendant 3 ou 4 mois. Quoi.
Ouais.
Parce que là, franchement, en VO, pour moi, c'est de l'argent dépensé pour rien. Donc voilà. Et en plus, dans la VO, on a un magazine qui est double parce que ça fait donc 16 pages de BD, mais après, on a tout le script. Ce qui, honnêtement, moi, personnellement, je m'en branle.
Toi, tu t'en branles. Tu vois, moi, par exemple, ça me donne envie d'acheter la VO, ça.
Ouais.
Bah voilà. Ouais.
Non mais
ça, c'est fait.
Disons qu'un script pour un numéro qui est cool, ouais. Là franchement un script pour ça. Je veux dire, nous montrer le script qu'a pondu Warren Ellis pour la première partie. À la rigueur pour la deuxième partie, ouais, c'est plus intéressant. Mais pour la première partie, enfin moi j'en vois pas d'intérêt quoi. Enfin bon, on va pas passer 3 heures sur ça, parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire. On a déjà fait bien trop long là-dessus. On passe à deuxième épisode, c'était le X-Force volume 3 numéro 7. Le scénario est de Craig Kyle et Chris Yost. Les dessins et l'ancrage sont de Mike Shay. Ben, on a eu un premier arc qui s'est terminé un peu en n'importe quoi.
En autre boudin, faut le dire, c'était de la daube.
En grand bain de sang, inutile et vide.
Bah, ce qui avait bien commencé en fait a terminé assez de façon un peu nulle quoi.
Ben là, quoi moi,
en fait ça a été précipité, ils auraient peut-être duré 2-3 épisodes de plus pour mieux montrer les choses, mieux expliquer les trucs. Pour moi en tout cas ça aurait mieux passé.
Ben, disons que l'épisode 2-3 était assez long en blabla, l'épisode 4 un petit peu aussi, mais alors l'épisode 5 et 6 ça a été.
Ouais mais du coup Angèle qui passe de nouveau, c'est quasiment cavalier de l'apocalypse, mais quand en fait on le voit en humain. On apprend seulement maintenant ce qui se passe vraiment, quoi.
Non, mais ça, c'est dû au problème de 2 mois de chez Panini, quoi.
Alors, je sais pas si c'est dû au problème de 2 mois de Panini, mais en tout cas...
On avait vu ça, justement, dans Secret Invasion, le mois dernier, dans X-Men, le Secret Invasion X-Men 2. C'est ce qu'on avait vu le mois dernier dans le X-Men 150, chez Panini. Effectivement, ça posait un problème, quoi. Mais là, justement, on a la réponse. Moi, je trouve que cet épisode 7, qui est un nouvel arc, en tout cas, commence plutôt pas mal.
Ah oui, bah c'est ce que je voulais dire, c'est que là au moins on a des réponses un peu sur tout, on voit le côté abruti du cul de Cyclope, ça confirme encore plus, parce qu'autant je le trouvais nul avant, maintenant je le trouve encore plus nul que d'habitude, C'est-à-dire que là, ça devient du genre le chef des tueurs d'X-Force, là, mais en fait, non, il veut pas trop se mouiller pour si jamais. Faut quand même qu'il reste le genre le scout, quoi. Donc, au bout d'un moment, faut qu'il... du genre, Angèle peut pas partir, faut qu'il reste, l'autre, Elixir, faut qu'il reste, etc. Donc, en fait, tous les problèmes viennent de Cyclope, on se rend bien compte.
Moi, ce que j'ai... Enfin, ce que j'adore, justement, pour continuer dans ce que tu dis, c'est quand même que c'est lui qui essaye de faire prendre aux gens les risques en mettant Ran face à Cyclope, face à Archangel, pardon. C'est lui qui a ordonné de faire ça, alors que Woolvie était contre, quoi.
Oui, parce qu'il savait déjà ce qui allait se passer, quoi. Il est pas bête.
Mais c'est du grand n'importe quoi. Il veut pas impliquer Emma, mais il implique les Cuckoos.
Bah, moi, ce que j'ai trouvé nul avec Emma, c'est que voilà, quoi, ils ont une sorte de lien télépathique ensemble. Ils se disent quasiment tout, où elle peut tout savoir, puis là, cacher ce genre de truc, ça... c'est ridicule.
Moi, ce que je comprends pas, c'est que, enfin, je vois bien Emma à la tête d'une opération comme ça, quoi. Ça collerait tout à fait.
Surtout vachement plus Emma. Alors moi, je vois vachement plus Emma là-dedans que Cyclope lui-même.
Bah oui, non.
Cyclope, c'est comme je te dis, c'est le... Moi, je le vois toujours comme le bon petit scout. Là, par exemple, il dit bon, allez tuer, vous faites la sale besogne, mais en même temps, je veux pas être trempé, je veux pas tremper là-dedans.
On va voir après sur quoi ça va partir, en tout cas là-dessus, mais. Je sais pas, moi j'ai bien aimé quoi cet épisode.
Moi j'ai bien aimé aussi. Moi franchement là ça je reprends un peu goût à cette série.
Et puis oui, il y a le. J'étais en train de me dire, mais il y avait pas que ça quand même, oui, il y avait quand même le cliffhanger de l'épisode, le retour à la vie politique de Graydon Creed. Manipulé par Bastion, mais le retour de Graydon Creed.
Je croyais qu'il était mort d'ailleurs Graydon là.
Ben oui, mais bon, il a été ressuscité avec les autres à mon avis.
Ouais.
Comme Cameron Hodge,
et puis bon,
comme tout ça.
Le retour du Vanisher.
Ah oui. Ah voilà. qui va quand même chercher le Legacy Virus.
Voilà. Donc lui, que je l'avais adoré à l'époque, c'est quand il. Comment ça s'appelait cette série? Les Fallen Angels, je crois que c'était, non?
Oui.
Oui, c'était les petites frappes et tout ça, les petits voleurs, il y avait le dino, il y avait l'homme un peu préhistorique. Il y avait l'autre, je crois qu'il y avait celle qui faisait des bombes boum boum là ou
boum boum, ouais.
Moi j'adorais cette série, et puis là ben depuis je l'avais pas revu, je crois. Bon, ils leur donnaient un style un peu mieux quand même, hein.
Il a un style un peu plus moderne, ouais, c'est clair.
Donc ouais, non, là il y a plein de trucs qui se mettent en place, le virus Legacy qui revient, d'ailleurs il revient aussi dans Secret Invasion.
Ouais. On en
parlera. Donc non, il y a plein de petits trucs qui se mettent en place, mais ce que j'ai peur c'est que ça fasse comme au tout début quoi de la nouvelle version d'X-Force. C'est-à-dire qu'il y a des trucs super bien qui se mettent en place. Et qu'après il rate tout de nouveau quoi.
Bah on verra. On verra. Moi je leur donne leur chance. En tout cas, déjà un truc qui m'a plu aussi énormément dans l'épisode, ce sont les dessins de Mike Chung. C'est quand même. Oui. Enfin, j'ai trouvé ça nettement plus beau que Clayton Crane.
Ouais. C'est différent, je dirais.
Ah, c'est différent, c'est sûr que c'est pas de la peinture. Mais j'ai trouvé ça plus visible. C'est moins fouillis, c'est vachement moins sombre.
Bon, la couleur, je suis quand même pas super convaincu dans l'épisode. Hein. Moi, je trouve que la colorisation, elle enlève un peu de charme, ça fait peut-être un peu, je sais pas. Hein.
Ah, y a peut-être ça fait un peu aseptisé. Parce qu'en VO, moi, j'ai trouvé la couleur nickel, quoi.
Bah, sur certaines pages, moi, j'ai pas aimé. Sur d'autres, tu vois, comme la dernière avec le Vanisher, j'ai adoré. Mais il y en a certaines où, je sais pas, où c'est peut-être mal donné ici avec l'impression.
Bah, peut-être, ouais.
C'est possible.
Disons que moi, ce que j'ai bien aimé en plus, c'est le côté retour, entre guillemets, à la clarté... pour cet épisode où il y a une espèce de mise au point vis-à-vis de l'équipe et que justement comme la page dont tu parlais avec le Vanisher on a un retour à la couleur plus sombre. De toute façon X-Force c'est obligatoirement une série qui va avoir une couleur sombre de par déjà le thème, donc je sais pas, enfin j'ai bien aimé aussi le petit hommage au premier Warpath, enfin Thunderbird pardon, au frère de Warpath, voilà. J'ai un petit peu de mélange.
C'est la seule personne à qui il peut parler maintenant.
Un mort.
Et puis j'aime bien parce que Wolverine il reprend aussi un peu ses lettres de noblesse avec tout ce temps passé, on va dire.
Ouais.
On retrouve un peu son côté un peu cowboy solitaire, tueur, etc. Mais tu vois qu'il comprend les gens puis qu'il a toujours un petit côté un peu mélancolique quoi, qu'il avait perdu ces derniers temps quoi, depuis quelques années.
Il devient le vieux sage en fait.
Mais il était déjà une sorte de vieux sage, un peu animal sauvage de temps en temps qui pétait toutes des gueules et tout ça, mais pour moi il a toujours eu ce petit côté un peu du genre je comprends les gens mais je leur fais pas chier quoi. Et puis là ça colle bien contre le Cyclope qui est devenu un peu une tête de con quoi. Encore plus qu'avant.
Voilà. Je savais que ça viendrait ça. Oh, je sais pas, en tout cas moi j'ai vraiment apprécié l'épisode. Ce que j'apprécie aussi beaucoup, alors c'est peut-être parce que je suis un vieux lecteur de X-Men et que j'ai tendance à préférer plutôt les anciens que les nouveaux, mais entre X-Men Legacy et X-Force, on a un espèce de retour aux sources. Je sais pas, le Mike Carré et Kyle et Yost vont fouiller vraiment dans le passé et aller chercher les petits trucs. Ben genre ils nous ressortent Graydon Creed, ils nous ressortent Cameron Hodge, ils nous ressortent le Legacy Virus.
Le mieux qu'ils pourraient faire, c'est de buter Cyclope.
Non mais ça laisse tomber, ça arrivera jamais.
C'est le meilleur truc scénaristique du monde, je crois.
Ouais mais c'est non, c'est pas possible.
Si c'est possible, mais ils le veulent pas.
Ouais. Bien, enfin bon, c'est bref, hein, c'est un très bon épisode et j'attends avec impatience de lire la suite quand même.
Bah moi j'espère juste que ça va pas foirer comme la dernière fois quoi. Ouais. J'espère qu'ils vont continuer sur des bonnes rails puis pas déraper à la fin quoi.
On verra. Ok, ben, le numéro d'après c'est le X-Factor Leila Miller spécial, scénario de Peter David, dessin de Valentine Landreau et ancrage de Drew Hennessy.
Or là ça fait plaisir là, après 2 mois de daube avec le X-Factor tout pourri dessiné comme...
Pleure pas, t'inquiète pas, ça revient le mois prochain.
Oui mais bon, au moins là, cet interlude il est bon quoi, on retrouve la qualité de... De Factor X d'il y a quelques mois, quoi.
Ouais, mais bon, je te dis clairement, Strowman revient le mois prochain, donc...
Ouais, en espérant que ça soit mieux, quoi, mais...
Non, non. Non, je l'ai vu déjà, c'est pas la peine, c'est pas mieux, quoi.
Donc là, ouais, non, là, pour l'instant, ça, moi, quand je l'ai lu, bah voilà, c'était du pur bonheur, quoi.
Ah, déjà, ça fait plaisir de revoir Leila Miller.
Parce que, ouais, en plus, c'est un perso qui est vraiment excellent, quoi. Et qui est mieux développé là dans quelques pages que depuis des mois quoi.
Mais là j'ai trouvé d'ailleurs Peter David au sommet de sa forme quoi.
Moi je l'ai trouvé exceptionnel alors. Je sais pas si c'est à cause des 2 épisodes d'avant qui étaient surpourris. Donc là ça donne une sorte de...
C'est bien possible d'ailleurs.
Comme une sorte de bénédiction, comme un truc ouais salvateur, mais c'est vrai que là moi j'ai trouvé ça tout excellent, comme tout, comme c'est fait, comme c'est mis en place. Je sais pas, tout quoi.
Les Américains devaient être contents parce que ce numéro est sorti le même mois qu'est sorti les numéros de Secret Invasion. Donc ils ont dû se dire, oh putain, quel bouse. Et quand ils ont acheté ça, voilà, ils ont dû se dire, ah ça c'est excellent. On sent un Peter David qui est déjà qui aime bien le côté comment dire, anarchique de la chose, qui est vachement politique parce que l'épisode est quand même vachement politique. Sur les façons de faire passer l'information, sur...
Bah, ça joue un peu sur comment ça se passe aux États-Unis, si tu regardes bien, c'est tout par rapport à la télévision, les médias et tout. C'est-à-dire que là, ce qu'elle fait, c'est utiliser les moyens qu'utilisent les politiciens contre eux, quoi.
Et c'est excellent, quoi. C'est excellent, de bout en bout. Avec donc, un Cyclope qui est... je l'ai trouvé...
Qui est bien. Alors, magnifique. Pour une fois, j'ai aimé Cyclope.
Il a un espèce pourquoi de look.
Moi, c'est pas le look. Moi, c'est vraiment le... Bah, le côté, tu sais, du genre où il est super aigri au début, du genre je l'attends, etc., depuis des années, et qu'à la fin, si tu veux, bah, il craque un petit peu, qu'il dit bon, bah, je suis désolé quand même. Donc ouais. Là, il a un côté humain, moins tête de con, tu vois ce que je veux te dire.
Complètement.
Mais, non, tout est bien, puis bon, bah, sa fille, je trouve qu'elle donne super bien, quoi.
J'ai apprécié quand même la tarte qu'il lui a mis dans ma tronche. Parce qu'il y a des moments où on a quand même vachement envie de la baffer, quoi, avec son, ouais, je sais des choses. Putain, mais dis-les, quoi! Une bonne tarte dans la gueule.
Oui, mais elle peut pas. elle peut pas.
C'est pas grave. Une bonne tarte dans la gueule, des fois, on a envie de lui mettre, quoi.
Puis bon, là, il y a un moment de l'épisode où j'ai adoré, c'est quand il y a une sorte de mini-manifestation, il y a un type qui dit un discours, qui parle de communistes, qui parle de trucs comme ça, ouais. Puis il y a des jeunes qui disent, mais c'est quoi les communistes, c'est quoi ce machin? Donc on voit bien, bah, c'est aussi un peu le reflet de maintenant, quoi, où il y a certaines périodes, quoi, certains jeunes qui savent pas ce que certaines choses sont, ou ce qui s'est passé un peu plus tôt, quoi, dans l'histoire, donc. Non, moi j'ai trouvé ça vraiment excellent dans toute la lecture, quoi.
Ça et X-Force, mais X-Force en deuxième et X-Factor, c'est vraiment le meilleur numéro du mag, quoi.
Ah ouais, non, mais là, c'est, voilà, quoi, je te dis, c'était mon petit bonheur du mag.
Puis alors la fille de Cyclope, quoi, et d'Emma Frost, puisque ça, de toute façon, en tout cas, ça se voyait d'entrée de jeu. Un coup de rafale optique et une blonde comme ça, tu te dis, bon, ok, mais magistral, quoi. Super
personnage. Non, moi, c'est bien. Tout bien, quoi. Même le look, comme tu disais, de Cyclope, moi je trouve qu'il donne super bien. On voit... c'est le côté vraiment, je suis vieux, puis faut que je reste en vie pour la rencontrer, quoi. Ouais. Donc non, tout est bon dans cet épisode, comme c'est, comme il joue avec le futur, la prescience et tout ça. Moi j'ai trouvé ça vraiment excellent, quoi.
Mais on sait qu'elle va repartir, quoi. Qu'elle va réussir à rentrer dans son époque, puisqu'il lui donne la photo.
Bah oui, c'est pour qu'il ça qu'il attend.
Qu'il donne à Cyclope. Donc, c'est cool, au moins elle va revenir. Ça fait plaisir, parce que malgré tout, c'est un personnage qui manque, je trouve, à l'équipe de X-Factor.
Bah, surtout qu'elle doit se marier avec le multiple, hein. D'après ce qu'elle avait dit dans l'épisode.
Ah, je me rappelle pas de ça.
Si, si, elle avait dit qu'ils allaient se marier et tout, qu'ils allaient avoir des enfants.
C'est con, il y en a déjà une qui est enceinte.
Ouais, ouais, mais bon. Chaud lapin comme il est aussi. Puis bon, c'est l'homme multiple, hein.
En même temps, je sais déjà ce qui se passe parce que je les ai lus jusqu'à.
Pas de spoiler, s'il te plaît.
Mais non, je dirai rien, justement. Mais,
Sinon, je serais obligé d'engager un tueur à gage.
Ouais, je sais. Je sais, j'ai la menace qui plane au-dessus de ma tête depuis longtemps.
Donc, non. Moi, parfait, quoi. Ce numéro-là, ben, ça me manquait de la qualité comme ça sur Factor X, quoi.
Ben, espérons que ça continuera comme ça, quoi. Si Peter ouais. David pouvait autant inspirer.
Si seulement.
Ok. Ben, on va passer au dernier numéro du mag, le Exiles Annual numéro 1. Scénario de Tony Bédard. Alors, les dessins, c'est par pas mal de monde. L'ancrage aussi, je vais pas tous les citer parce qu'il y a beaucoup de monde. Ok, c'est un peu plus intéressant que ce que j'ai lu des Exiles depuis un moment, mais je sais pas, j'accroche pas à les Exiles, j'accroche plus en fait.
Bah, moi honnêtement là, j'ai trouvé ça encore moins bon que d'habitude, quoi. C'est-à-dire avant j'aimais bien quelques petits trucs, le côté marrant, mais là, mettre un autre courtier, mettre une autre équipe, pareil.
Puis bon, c'est difficile de juger, on a qu'un demi-épisode. C'est difficile de juger parce qu'on n'a pas la résolution de l'histoire, on n'a pas forcément toutes les pièces mises en place dedans. Je pense qu'on en parlera quand ils publieront la fin, ce sera mieux.
Ouais. Là, bon, en tout cas, pour l'instant, je sais pas, moi, ça m'a pas buté plus que ça. Ouais, quoi.
À part le fait de voir Blink et Morph ensemble, qui m'a fait gentiment sourire. Par ça, non, il n'y a rien d'autre. Voilà.
Ouais. Sans plus.
Bien. Ben, on va passer au numéro d'après, c'est le X-Men 151. Le premier épisode, c'est le X-Men Original Sin, scénario de Daniel Way et Mike Carey. Dessin de Mike Diodato et Scott Eaton, ancrage de Mike Diodato et Drew Hennessy. Donc c'est la première partie du crossover Original Sin qui va s'étendre sur donc ce mois-ci dans X-Men 151 et Wolverine 187 et le mois prochain dans X-Men 152 et le Wolverine 188. Après donc l'amnésie de Daken, Wolverine décide de l'amener à Xavier pour qu'il lui fasse sauter tous ces trucs.
Quoi, c'était à Emma Frost plutôt, je crois, à la base.
Ouais, à la base, il voulait l'amener à Emma Frost.
Parce que lui, Xavier, il croyait que Xavier était mort.
Comme tout le monde, d'ailleurs.
Voilà. Et bon, en même temps, une balle dans la tête, normalement, ça pardonne pas. Hein. Surtout de cette grosseur, on va dire.
Il y a que dans les comics qu'une balle dans la tête, ça ne tue pas. Donc, voilà, il voulait l'amener à Emma Frost pour essayer de faire sauter toutes les programmations que Daken avait eues, afin de, comme lui laisser le choix. Et on revoit pas mal de flashbacks sur l'arrivée de Wolverine dans les X-Men... Et on découvre pas mal de petites choses qui se sont passées qu'on ne connaissait pas.
Alors par exemple, là, moi j'ai eu un grand moment de bonheur quand il y a Logan qui pète la gueule un peu à tout le monde, surtout à la Reine Blanche qui lui colle une grosse patate dans sa tête.
Oh putain.
Alors.
Une espèce de tarte.
Voilà, une espèce de tarte. Alors moi, pourquoi j'ai beaucoup aimé ce moment-là ? Parce que comme j'y ai depuis quelques mois, c'est que Xavier est devenu en l'espace de peu de temps, quoi, une sorte de monstre, sans nom aux yeux de tout le monde, surtout aux yeux de Cyclope. Et là, d'un coup, ça rétablit un peu l'équilibre. Au moins quelqu'un qui croit en lui, quoi, un minimum.
Enfin, il croit en lui, mais ce qu'il lui demande, quand même, c'est de revenir à ses vieux travers, quoi.
Oui, mais c'est des vieux travers, mais en même temps, ce qu'il a fait pour Logan, c'était pas non plus si mal, quoi. C'est de tout reconstruire sa vie, d'enlever tous les pièges, etc. Donc, d'un côté, il a fait des trucs mauvais, mais on lui... Voilà, quoi, c'est un pionnier. C'est un des premiers mutants, comme Magneto, d'ailleurs. Ce Magneto, il a eu des hauts, des bas, dans le côté bon, méchant, etc. Mais en même temps, ça reste des êtres humains, quoi, avec leurs faiblesses, puis leurs points forts. Mais en même temps, je vois... Voilà, quoi, c'est le côté où il est... À partir du moment où il a été trop humain par rapport à Cyclope, je dis, autant un coup, le gars, le grand rêveur, celui-là qui tenait le rêve à bout portant, à partir du moment où il a fait une erreur ou plusieurs erreurs, que ça c'est sûr, paf, c'est un monstre. Cyclope, ces temps-ci, il arrête pas de faire exactement la même chose en pire.
Qui sait, peut-être que d'ici 2-3 ans, il arrivera la même chose à Cyclope et plus personne ne voudra le voir, quoi.
Ouais, mais alors d'un côté, je pourrais comprendre, il est tellement con que moi je l'aurais déjà viré de l'équipe depuis longtemps ou je l'aurais déjà buté. Mais d'un côté, c'est ça ce que je trouvais bizarre. Là, au moins, ben, il y en a un qui s'énerve en disant pourquoi moi j'étais pas au courant, quoi.
Bah, surtout Logan, je continue à dire. S'il y a bien quelqu'un à qui il peut faire confiance dans l'équipe, c'est quand même Logan, quoi. Il l'a prouvé de nombreuses fois maintenant, enfin.
Ouais, mais de nouveau, Cyclope, c'est une tête de con.
Cyclope, il va faire son petit chef, quoi.
Donc là, je trouve que c'est un peu rétablir l'équilibre par rapport à Xavier, je trouve.
Le problème de Cyclope, c'est qu'il veut se diverger de Xavier, il veut pas faire les mêmes erreurs que Xavier, mais il est en plein dedans, quoi. C'est ça.
Bah, il est en plein dedans, puis en même temps, bah, c'est encore pire que Xavier, parce que comme je te dis, Xavier, c'est une sorte de pionnier, précurseur, ben, il devait faire ce que lui pensait juste, quoi. Il savait pas comment ça allait tourner. Lui, c'est déjà ce qu'il faut pas faire, Cyclope, mais il le fait quand même.
Bah,
c'est une grande tête de con.
Lui aussi, c'est ce qu'il pense que c'est. Ouais, il pense que c'est juste sa façon de faire.
Mais, en tout cas, alors, c'est pas que c'est pas juste, c'est sa façon de réagir qui m'énerve.
Oui.
C'est-à-dire qu'il fait tout le monde, c'est du genre, allez-y, allez tuer tout le monde, mais non, en fait, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Non, non, du tout. Qu'est-ce que je veux te dire? C'est ça qui m'énerve chez lui.
Mais d'ailleurs, Ulvi lâche à moitié le morceau, quoi. Et Emma Frost tique pas, quoi. C'est ça qui est bizarre.
Ou peut-être qu'elle a tiqué, mais bon, la grosse baffe dans sa gueule, ça a peut-être rendu amnésique d'un coup. Non. Parce que moi, si t'as remarqué, elle a même pas eu le temps de se changer en diamant. Hein.
Oui, non, elle a pas eu le temps, elle l'a pas vu.
Elle s'est pris la grosse patate comme ça d'un coup.
Puis une patate avec des os renforcés en adamantium de Wolverine, ça doit faire mal.
Voilà. Donc non, moi je sais pas, j'ai beaucoup aimé ce passage-là. Parce que même si Serval cherche, si tu veux, Xavier, pour ce genre de truc un peu, on va dire, spécial, puis même un peu moyen, mais j'ai trouvé ça juste, quoi.
Mais... Pendant justement que Wolverine est à la recherche d'Emma Frost puis de Xavier, il confie Daken à un pote à lui, un pote chinois à lui, que honnêtement je vois pas qui c'est. Hein. Je sais pas si on l'a déjà vu, mais si on l'a déjà vu, il m'a rappelé vraiment personne, quoi.
Non, bah moi non plus.
Et donc il s'occupe de Daken en le mettant en sécurité, et voilà qu'arrive le nouveau. La nouvelle. Miss Sinister, donc.
Bon, en même temps, le mettre en sécurité, c'est vraiment un gros couillon aussi, cette Wolverine. Hein. Parce qu'honnêtement, l'endroit où il aurait été le plus sécurisé, ça aurait été à côté de son père.
Ouais. Mais bon, il voulait pas que ça se sache, quoi. De pourquoi du comment. Il voulait l'amener juste pour qu'il y ait...
Tout simple, tu le prends, tu restes dans la voiture, maintenant. Tu vois ce que je veux te dire? C'est que là, il est tellement à milieu, tu sais, si tu veux, de tout. C'est genre, bon, bah, tu restes dans le temple, hein, tu sors pas.
Son gamin, il a 25 ans, tu crois que, enfin, je sais pas, moi, ma mère, elle me dit à 25 ans, tu me dis, tu restes dans la voiture, là, tu m'attends.
Bah, attends, je préfère qu'on me dise reste dans la voiture que plutôt reste dans un truc bouddhiste où t'as même pas un lit. Où les toilettes, c'est un seau.
Ouais.
C'est clair qu'après, il y a Miss Sinis qui arrive toute belle, toute pimpante, avec un gros décolleté, fait, hey, ça te tente de savoir qui t'es, puis en même temps succomber à tout. À tous les plaisirs de la vie. Bah ouais, attends, il est dans un truc bouddhiste.
Ouais, mais il refuse, hein. Il refuse
la première fois. Après, elle se barre, puis il se dit, bon, je te laisse réfléchir, tranquille, vas-y.
Bah, il lui laisse réfléchir. Bah, disons qu'en même temps, vu que tout a été bombardé au napalm, il lui reste plus grand choix, quoi.
Ouais, mais en même temps, son choix est fait, à place de dire, non, non, je reste ici, j'attends mon papa, hein. Non, faut qu'il y aille. Bah, c'est normal, c'est logique.
Donc voilà, et
enfin,
ça...
bon, moi, je trouve qu'il a joué un peu au couillon, Logan, sur ce coup-là.
J'ai trouvé d'ailleurs que les dessins de Deodato et de Eaton se mariaient vachement bien, quoi. Même si on sent qu'il y a une petite différence graphique, Scott Eaton étant, enfin, ça vient aussi du coloriste, mais le côté, la partie Mike Deodato est plus sombre que la partie de Scott Eaton. Et malgré tout, ça se marie vachement bien les deux ensemble, je trouve. Il n'y a pas une aussi grosse rupture graphique que j'aurais pu croire au début.
Non, là moi j'ai trouvé ça nickel, quoi. Mm.
Enfin bon, tout ça nous amène à la deuxième partie, le X-Men Legacy 217, donc scénario de Mike Carey, dessin de Scott Eaton et ancrage de Drew Hennessy. Et donc là, Daken est amené à Valence par Miss Sinistre, j'ai du mal à le dire.
Bah et tu donc, vois, en plus, alors ça dirait un petit côté sympathique, meurtre, sexe, plage, Valence, hein, plage, tranquille, hein, ça te tente, hein.
Et c'est
là, je veux dire, ouais. Le gamin de 25 ans, il va dire quoi? Maron, y va.
Et donc l'investigateur de tout ça, c'était bien sûr Sébastien Shaw, toujours dans les bons coups. Et donc il essaye de faire lui aussi, enfin de fouiller la tête de Daken, quoi, par Miss Sinistre et ses pouvoirs télépathiques. Et c'est ce que je te disais juste avant qu'on enregistre le podcast. J'ai vraiment l'impression qu'avec ce nouveau personnage et ses facultés télépathiques, qu'on essaye de nous recréer une reine blanche, bon, même si elle est habillée en noir, une espèce de nouvelle reine blanche pour Sébastien Shaw, quoi.
Je crois que c'est un peu le but quand même. Hein.
Bah oui, j'ai vraiment l'impression de retrouver la Emma Frost de l'époque du Hellfire Club, quoi. Donc il y a la fin des années 70, début des années 80, quoi.
Bon, c'est comme je te disais aussi, moi j'ai trouvé ça un peu, un petit côté un peu gay. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'enlever cette image d'homme de Miss Sinistre.
Moi j'y arrive, ça va.
Bah moi, c'est j'y arrive pas. Quand l'a embrassé, je me suis dit, mais c'était un homme.
Ce qui est énorme, c'est que pas une seule fois, elle est appelée Miss Sinistre, il l'appelle Célestine. Du nom de la vieille qui avait piqué la psyché de Sinistre, je crois.
Voilà, maintenant j'ai une autre image dans la tête avec la vieille toute pourrie, là. C'est encore pire.
Mais voilà, donc. Disons que ce côté sinistre, à part le petit diamant sur le front et le teint blafard, pour moi, c'est vraiment deux personnages différents. C'est quand je dois dire Miss Sinistre, ça me gêne, quoi. Mais je vais l'appeler Célestine, ça sera plus simple.
Ouais, non, mais le côté ratatiné, ça me va pas non plus. C'est encore pire.
Non, mais voilà. Et puis, de l'autre côté, on a un petit retcon sur l'arrivée de Wolverine dans les X-Men. Et qu'en fait, il était là pour tuer Xavier.
Voilà, ce qui en fait, qu'ils avaient fait à peu près dans les Ultimates, on va dire.
C'est. Alors, quand j'ai commencé à lire ça, quand ça commençait à venir, j'ai tout de suite pensé aux Ultimates. Et je me suis dit, oh là là, j'espère que ça va pas être fait n'importe comment parce que.
Non, alors au contraire, moi j'ai trouvé que ça a été bien fait cette fois-ci.
Ouais.
Parce qu'il y a eu le côté sauvage d'un coup. C'est ça, parce qu'il y a eu une programmation pour le tuer, quoi.
Mais.
Moi c'est ça ce que j'ai bien aimé, c'est le côté programmation du genre, oui, je vais aller chez les X-Men, je peux vous parler, ok. Et hop, il va le tuer, quoi.
On aura l'occasion d'en reparler quand on abordera le Wolverine sur le pourquoi du comment, mais j'ai trouvé que l'explication était bonne. Mais c'est vrai que on voit que Xavier l'a maîtrisé et l'a foutu dans un espèce d'appareil. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quasiment le même appareil qu'avait Sabretooth à l'époque où il était enfermé chez les X-Men.
Oh, c'est fort possible, hein. C'est pour ça qu'ils l'ont construit aussi vite, celui-là, pour.
Ça m'a vraiment fait penser à ça, quoi. Et c'est toutes ces petites touches de retour à la vieille continuité que j'adore, quoi.
Moi qui mets pas trop d'Aken, bon là il est pas trop mis en avant non plus, mais là ça tu vois j'y reprends un peu goût, quoi.
Le personnage est sympathique là, à peu près.
Ouais, c'est un adolescent un peu couillon, quoi. Mais...
Ouais, bon il est un peu plus qu'adolescent quand même. Enfin je sais pas, j'ai plutôt l'impression qu'il a 20-25
ans. Non mais je dis dans sa façon d'être.
Ouais. Ouais.
C'est ça.
Pareil, il a le piège mental est pas mal foutu, quoi. Je trouvais l'idée intéressante.
Mais pour l'instant tout est bien. Moi j'attends de voir la suite avant de dire quelque chose, mais en tout cas pour l'instant. Comparé aux X-Men du mois passé, que j'avais. C'est pas que j'avais pas aimé, mais j'avais trouvé ça un peu moyen. Comparé à ça, là maintenant je trouve que ça redonne une petite dimension un peu sympathique à tout cet univers mutant, on va dire.
Bah, déjà, moi, X-Men Legacy, j'ai vraiment adoré le concept de la série. En plus, Wolverine Origins s'avère être très très bon pour une fois avec ce crossover. Donc c'est du gagnant-gagnant, quoi. Moi je suis vraiment agréablement surpris parce que vu la qualité de Wolverine Origins, franchement j'adore. J'adhère pas du tout. Et là du coup ça met en place un bon crossover et ça rend les épisodes bons. Et ouais non, je suis vraiment agréablement surpris parce que je m'attendais à pire, quoi.
Oh, c'est clair.
Alors peut-être que les deux prochaines parties vont se terminer n'importe comment et ça va être du vite fait et surtout du pas crédible. Mais là pour le moment, moi j'adhère, quoi. Franchement,
tant que ça continue comme ça, ça peut être cool. Ouais.
Peuvent nous faire des crossovers comme ça tous les mois s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Avec cette qualité, bien sûr.
Voilà, on espère que ça continue.
Ouais. On va passer au troisième épisode, le Secret Invasion X-Men numéro 3, scénario de Mike Carey, dessin de Kerry Nord, ancrage de Kerry Nord. Et alors, autant Mike Carey est super inspiré sur X-Men Legacy, autant sur le tie-in de Secret Invasion, c'est vraiment pas bien.
Bah, ça reste un peu dans la continuité des mois passés, c'est-à-dire que c'est pas le meilleur truc de Secret Invasion. Bon, là, il y a un petit truc en plus avec, comme on en parlait avant, du virus Legacy.
Bah ouais, mais c'est cette espèce de retour au virus Legacy que Beast arrive à
trouver.
Ouais, à trouver, voilà. Pour annihiler les Skrulls. Mais je sais pas, c'est. En même temps, c'est lent, et en même temps, c'est trop rapide. J'arrive pas à expliquer exactement, mais je sais pas. On s'ennuie, et en même temps, ça va trop vite.
Je sais pas, moi, le côté que j'ai trouvé un peu du genre oui le virus de Legacy, mais en même temps ils ont déjà un vaccin même s'ils doivent tuer quelqu'un à chaque fois.
Ouais.
Mais en même temps c'est vite vu, ils gardent un Skrull au chaud, eux ils se mettent au chaud, ils balancent le virus, ils tuent le Skrull pour le vaccin, puis c'est réglé, quoi.
Ouais.
Bon, je suis peut-être plus sadique que les X-Men, quoi, mais.
Bah pas que
ça. Mais moi je trouve mon plan parfait.
En fait tu fais des plans la Cyclope.
Non, je fais des plans, moi je les assumerai ce genre de plan. Hein. C'est à partir du moment où où tu proposes un plan comme ça, hein, faut être prêt à l'assumer. Voilà le problème avec Cyclope, c'est qu'il assume pas ses actes. Par exemple, le fauve, il se rend compte de la testule du truc horrible qu'il se met à proposer à tout le monde, mais au moins il assume jusqu'au bout, quoi. Ouais. Donc moi, c'est ça ce que je trouve bien. Il assume. Il dit, bon, voilà, j'ai un moyen, mais ça peut tous nous tuer aussi. Alors?
Il y a une page à laquelle j'ai vraiment pensé quand j'ai vraiment pensé à toi quand je l'ai vu, c'est le passage où Colossus vient sauver le gamin dont je me rappelle plus le nom.
Colossus, c'est quoi des grands moments.
Donc quand j'ai vu cette pleine page avec Colossus, je me suis dit ah, quand tu vas la lire, tu vas être en extase.
Eh ouais. Non mais bon, ils ont tué Kitty Pryde, ils l'ont balancé dans l'espace dans un suppositoire géant, c'est ce qui m'a le plus dérangé, mais. De toute façon, sinon ça va m'énerver encore.
Ouais, mais de toute façon, il n'y a pas grand chose à en dire, quoi. Nightcrawler, mais bon, Diablo pour les Français. Et peut-être débarrasser de cette boule, cette espèce de Bible. L'idée était bien, mais je trouve ça, en fait, plus les numéros avancent, plus je m'ennuie dans ce truc-là. Donc, déjà, le premier, j'avais pas trouvé ça transcendant. Le 2, j'ai trouvé ça lourd. Le 3, je trouve ça aussi lourd. Bon, le mois prochain, ce sera la dernière partie. Qu'on n'en parle plus, parce que de toute façon, c'est pas bon, quoi. Donc voilà, enfin ça reste mon avis. Mais je crois que t'es à peu près
du même avis. Non, alors, je trouve que c'est le moins bon truc de Secret Invasion. Non, j'irai pas jusqu'à dire que c'est complètement pourri. Parce que là, je préfère largement cet épisode à celui du mois passé où il se passait pas grand chose, quoi.
Enfin, quand on
sait c'est de la pure baston pour de la pure baston avec les petits trucs de la Bible, le Skrull. Donc ce mois-ci, il y a le petit truc en plus avec le virus Legacy. Donc ça m'a un peu plus, si tu veux, plus quoi.
Ouais, mais j'avais lu X-Force avant, donc voilà quoi. Coup du virus Legacy deux fois le même mois, ça m'a, je me suis dit bon allez.
Bah, pourquoi pas.
Après m'être tapé Original Sin, me taper Secret Invasion, la baisse de qualité, tu la ressens deux fois plus. J'aurais pas dû le lire dans ce sens-là en fait.
Un grand ronchon, c'est tout.
J'aurais dû lire Secret Invasion en premier et après lire Original Sin et pas l'inverse.
Faut faire comme moi, hein. Moi je prends toujours les trucs que je vais moins aimer au début et après je termine par le bon. Ouais. Comme ça tu termines par une note positive. Et au moins, t'as même l'impression que le pourri est peut-être devenu un peu moins pourri que ce que tu croyais.
Enfin, bon. Ok, on va passer au dernier épisode. C'est le Young X-Men numéro 8. Scénario de Mark Guggenheim. Dessin de Raphaël Sandoval. Ancrage de Roger Bonnet. Bah, à part un moment qui m'a vraiment fait marrer, je me suis encore ennuyé, quoi.
Bah, moi, j'ai trouvé ça mieux que les autres moins, quoi. C'est-à-dire le côté où il fait des tatouages un peu à tout le monde, puis il y a une sorte de gang, ou plutôt une armée, on va dire, hein. Moi j'ai trouvé ça vachement plus intéressant que les autres mois où c'était du genre oh, Donald Pierce, toi là, oh. Oh vous êtes fait avoir comme t'es mauvais, oh non. Là au moins, je sais pas, il y a un peu plus d'intérêt je trouve quoi.
Honnêtement, moi ce qui m'a déjà vraiment gêné, c'est pas les dessins mais l'ancrage. L'ancrage est super gros, super grossier. Déjà ça m'a vraiment repoussé. Et pourtant je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup les dessins, mais là ça m'a repoussé quoi.
Bon, les dessins, ils ont jamais été non plus super bien sur les Young X-Men.
Ah, hein. Mais là, je les trouvais vachement plus grossiers que d'habitude, l'ancrage. Je sais pas.
Bon, en tout cas, point de vue histoire, moi, j'ai préféré ça maintenant qu'avant, quoi.
Mais moi, le seul moment que j'ai adoré, c'est le passage où il parle de Law and Order, quoi. Donc, en français, de New York Police Judiciaire. Je sais pas, même pas si ça a été traduit comme ça dans la version française.
Je sais pas, ça m'a pas fait tilt parce que... Voilà, je regarde
le
pas
moment,
cette série.
Le moment où il dit qu'ils sont partis faire des enquêtes et que ça ressemble, qu'ils ont l'impression d'être dans Law and Order et que t'as, je sais plus comment il s'appelle, le gros truc en pierre là.
Rock Slide, je crois.
Ouais, qui fait doom doom quoi. Enfin, le bruit que tous les gens qui regardent la série connaissent quoi. Ce passage-là m'a vraiment fait marrer parce que moi j'aime beaucoup cette série, mais à part ça, je me suis un peu ennuyé quoi.
Bon, c'est pas le meilleur du mag. Hein,
donc, pour moi, c'est le souvenir que je garde de cet épisode, c'est la blague sur Law and Order.
Bah, tu vois, tout n'est pas perdu.
Enfin, deux cases, tu parles.
Bah voilà, toi, tu vois, ça t'a sauvé l'épisode. Moi, c'est comme Jeff Loeb sur Hulk.
Ah non, ça m'a pas sauvé l'épisode. J'ai dit que c'est le seul souvenir que j'en garde.
Oui, mais au moins, tu garderas un bon souvenir. Tu te rappelleras de cet épisode-là grâce à ça.
Ouais. Ouais, je suis pas sûr que je me rappellerai de l'épisode en particulier, je me rappellerai de la blague sûrement que c'était
fait. On en reparlera. Si 10-15 podcasts, on en reparlera.
Ouais. Moi ça va, j'ai une mémoire des chiffres, donc j'aurais sûrement me rappeler de l'épisode, mais bon. Enfin bon, voilà quoi. Donc ouais, bah, à part Original Sin, j'ai trouvé que le magasin était faible quoi. Donc c'est-à-dire qu'il y a la moitié qui est bonne quoi. C'est déjà mieux que rien du tout.
Ouais, ils doivent switcher entre Spider-Man qui est de temps en temps pourri, ça qui est pourri, voilà quoi. Ils doivent switcher chaque mois un truc bien.
Ouais, au moins ça va. Ça nous fait un petit peu de bien dans chaque truc.
Voilà.
Ok, ben on va donc passer au Wolverine 187, la suite d'Original Sin. On commence par le Wolverine volume 3, numéro 70. Scénario de Mark Millar, dessin de Steve McNiven et ancrage de Dexter Vines, comme d'habitude. Cinquième partie de Old Man Logan avec enfin le secret de Logan. Le pourquoi du comment il ne veut plus se battre. Et moi, je suis vraiment resté sur le cul, quoi.
Bah, honnêtement, moi, je l'ai pas vu venir. Puis non, bah pas nickel. Si moi je m'attendais plutôt à qu'ils soient fait tabasser à mort ou des trucs comme ça, ou qu'ils aient torturé des gens. Mais là, ce qu'ils lui ont fait, voilà quoi.
Bah pareil.
J'ai trouvé ça extraordinaire quoi.
Ouais, moi pareil pour moi quoi. Je me suis dit, il a dû se faire tabasser. Voyons comment la boucherie commençait. Je me suis dit peut-être qu'à la fin, il va arrêter son côté bestial et se rendre compte du massacre et ça va le calmer.
Bon, en fait, moi je me suis dit pendant tout l'épisode, comment il arrivait, si tu veux, à buter autant de gens aussi balèzes. Genre Mister Sinistre, des trucs comme ça. Mais après, je me suis dit, bon, c'est aussi un truc un peu parallèle, donc c'est possible, on sait jamais. Et à la fin, ben, on sait pourquoi il arrive à faire tuer autant de gens, quoi.
Et ouais, non, franchement, c'est super bien foutu, quoi. Ça donne un côté de Wolverine, comme d'habitude, le côté mélancolique qui ressort encore une fois du personnage. Mais là, vraiment, on arrive à comprendre pourquoi il veut pas sortir ses griffes et on peut pas lui en vouloir, quoi. D'ailleurs, c'est ce que lui dit Hawkeye. C'est exactement ce que lui dit Hawkeye quand il apprend la vérité, quoi.
Non, moi, en tout cas, cet épisode, je l'ai pas vu venir. Il m'a tapé en pleine gueule, quoi. Puis après on dit que Mark Millar il est mauvais ou il est pas au top. Moi ouais. Je trouve que pour l'instant j'ai lu plusieurs trucs de lui et jusqu'à maintenant il arrive encore à me surprendre assez facilement quoi.
Alors là ouais sur Wolverine il est vraiment excellent quoi, ça lui correspond parfaitement. Par contre autant sur Fantastic Four il est pourri quoi, il est vraiment mauvais.
Mais je crois pas que c'est plutôt l'ambiance familiale 4 Fantastiques qui est vraiment pourri, on en reparlera après mais ouais. C'est peut-être tout connement la série des 4 Fantastiques qui est trop vieille quoi, trop datée.
Possible. Enfin bon, ouais, non, c'est vraiment un excellent épisode. Il y a pas en fait grand chose à en dire parce que.
Non, c'est juste la révélation du pourquoi il se bat plus, puis pourquoi il est devenu fermier, quoi.
Mais c'est bien amené, c'est bien tourné et tout, c'est vraiment excellent.
Puis sa scène de flagellation ultime, là, avec le train, j'ai trouvé ça aussi exceptionnel, quoi.
Ah ouais, ça c'est fort.
C'est-à-dire qu'il savait qu'il allait pas mourir, mais c'est juste histoire de bien se faire souffrir, quoi. Voilà. Non, moi, cet épisode, quoi, tout Allman Logan me plaît. Tiens, pour une fois, cette mag, depuis qu'il y a Allman Logan, moi ça me plaît. Avant, il y avait toujours des histoires un peu pourries la plupart du temps. Et là, pour une fois, c'est un mag de qualité, quoi.
C'est clair que la série Wolverine a pas été aussi bonne depuis très 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 longtemps, quoi.
Ouais, bah vraiment très longtemps.
Bah, je crois que pour moi, le dernier moment qui était vraiment bon, c'était le moment où il était agent de l'Hydra, quoi. Que c'était juste avant Civil War, je crois, même avant, juste avant House of M. Ça remonte, quoi.
Ouais. Non, mais alors là, rien à dire. Qui continue dans cette voie-là. Hein.
Enemy of the State, voilà, c'était le nom de l'arc.
Ouais, l'ennemi d'État. Donc non, là, pour le... tant qu'il continue avec Allman Logan dans cette veine-là, en plus, là, à la fin, l'image qu'on voit, elle est quand même assez sympathique, on va dire.
Ouais.
Donc non, moi, je suis, j'adore cette... Ouais, j'adore. À 100%, quoi.
Bah, encore une fois, pour Wolverine, en tout cas, vivement le mois prochain pour avoir la suite, quoi.
Voilà.
On passe au dernier épisode du MAC, c'est le Wolverine Origins numéro 29, scénario de Daniel Way, dessin et ancrage de Mike Deodato. Troisième partie du Original Sin, pour moi c'est toujours aussi bon.
Ouais, disons que moi j'étais un peu déçu là sur ce coup-là, c'est-à-dire que là c'est un peu du... je sais pas, hein. Il sait que c'est pas eux qui ont fait le coup, mais il les tabasse quand même parce que c'est des mauvais gars, quoi.
Ouais, bon ça c'est le côté Wolvie badass.
Ouais, quoi. Mais... en même temps que son fils est disparu ou qu'autre chose, machin... Quoi, non, il le sait même pas, je crois, encore, non ?
Non, il est pas au courant que son fils... je crois qu'il le comprend à la fin. J'ai plus exactement la fin de l'épisode en tête, mais enfin bon... Si, j'ai enfin, la fin bon, de l'épisode en tête.
Genre, ouais, bon, bah, c'est des méchants. Tôt ou tard, ils allaient payer. Il aurait pu s'éviter ça, quoi.
C'est le Wolverine de X-Force, quoi.
Ouais, même pas, parce que le Wolverine d'X-Force, c'était quand même un peu plus réfléchi, quoi, si tu regardes bien.
Mais pas pendant les combats, non.
Non, pas pendant les combats, mais avant d'agir, il réfléchit quand même au minimum. C'est que là, il sait que... Voilà, quoi. Je sais pas, moi, c'est vachement mieux que les mois passés.
Ah bah, ouais, y a pas,
c'est vraiment
y a pas
de la taupe énorme, quoi. Mais c'est vrai que là, il y a ce petit truc qui m'a dérangé.
Bah, moi, il y a deux autres petits trucs qui m'ont gêné. La mauvaise coordination, en fait, entre Deodato et Eaton, parce que on voit que Célestine est habillée normale et que...
Moi, j'ai lu Claudine, hein, donc je
sais
pas.
Oui. Claudine, pas Célestine. Je sais pas pourquoi.
Ça, depuis la dernière fois, tu me dis Célestine.
Ouais, non, je sais pas pourquoi.
C'est plutôt Claudine.
Non, c'est moi qui me trompe. Ouais, effectivement, merci.
Célestine, c'est un fantasme à toi, on sait pas. Hein.
Je sais pas, c'est pas la femme à Babar, Célestine. C'est possible.
En plus, tu fantasmes sur la femme à Babar.
Ouais, bon, bref. On va éviter de s'infliger ce genre de torture. Ouais, donc, elle est habillée normalement. Et dans la version Deodato, elle est quand même habillée façon Reine Noire du Club des Damnés, quoi. C'est pas grand chose, mais je trouve que ça, c'est un léger manque de coordination et que ça, l'éditeur aurait pu éviter, quoi. Voilà. Et puis bon, cette espèce de nounours géant que Wolverine tabasse. Voilà.
Ça ouais, moi, j'ai plutôt vu ça comme le roi lion, quoi.
Ouais.
Ou comme le bel et la bête. Il manquait plus que la blague à côté.
Moi, ça m'a fait penser au, ouais, ça, et aussi au à l'animal du magicien d'Oz, quoi.
Voilà, bon, ils étaient pas super bien trouvés, ce cercle infernal, mais
disons qu'ils m'ont paru ridicule, quoi. Mais bon, voilà. Et passer un épisode à les tabasser, ça m'a paru un peu long, quoi. Pour trois petits bonhommes.
Moi, c'est juste la mauvaise raison du tabassage en règle. Moi, c'est juste ça, quoi.
Oui, il a bien pourri.
C'est vachement mieux que les mois passés, mais ça reste quand même un peu moins faible que dans le magazine X-Men, quoi, on va dire.
Et puis, au-delà du simple tabassage, il a quand même bien pourri le repère du Hellfire Club, quoi.
Ah oui, ça de toute façon.
Voilà, donc mais on a aussi le passage de la fin qui est sur comment Xavier a enlevé tous les blocages et toutes les programmations qu'avait Wolverine. Et j'ai trouvé la dernière page magistrale, quoi. Avec un Xavier avec un côté du visage complètement dans l'ombre, avec la petite phrase tant que tu te rappelles des X-Men, ça va, c'est ce qui compte. Ah, je sais pas. Bon. Ça fait le Xavier un petit peu evil, quoi, mais en même temps pas tant que ça, quoi.
Moi, pour moi, Xavier, c'est un peu c'est le gars qui a soutenu le rêve des mutants, tout ce que tu veux. En même temps, pour avoir un rêve, faut aussi savoir faire des sacrifices, puis faire certains côtés mauvais, quoi. Ouais. Certaines choses mauvaises et tout. Donc oui, là, comme il lui dit un moment, j'ai besoin d'une arme et toi t'es une arme.
Non mais bon, je trouve que c'est une bonne retcon, quoi. Encore une fois, ça dénature pas complètement l'idée des X-Men du départ, etc. Donc non, du retcon comme ça, moi ça va.
Au contraire, moi je trouve que Xavier, ça le rend encore plus humain et plus comment dire. Ouais, moi je le préfère maintenant avec ses côtés un peu plus humains, quoi, un peu plus avec des défauts et tout ça, pas comme à l'époque.
Ouais,
mais c'est pas qu'ils sont plus salauds, c'est plus humain. À l'époque, c'était vraiment le type qui faisait tout dans les règles, trop gentil, trop con, quoi.
Ouais, bon, il avait déjà bien dérapé avec l'équipe d'avant, hein, mais bon.
Ouais.
En fait, voilà, c'est Moira qui devait le pousser à déraper.
Mais non, c'est les femmes en général, je crois. Peut-être parce qu'il était chaud, puis qu'il était sur un fauteuil roulant, puis qu'il était tout frustré, quoi. Je sais pas, mais bon, en tout cas, voilà, moi je le trouve que ça le rend plus humain, donc plus sympathique.
Ok, bah de toute façon, on verra la fin du crossover le mois prochain avec la partie dans X-Men Legacy, donc dans X-Men, et puis la partie dans Wolverine pour Wolverine Origins, quoi. Mais bon, moi, juste pour le moment, même au bout de la troisième partie, je suis toujours satisfait du crossover, j'accroche énormément, quoi.
Bah tant que ça continue d'être comme ça, ça va.
Puis ça a le mérite de faire remonter en qualité Wolverine Origins, ce qui n'est pas rien.
Faire remonter directement le magazine Wolverine, on va dire, directement.
Oh, rien que déjà, pour le Man Logan, il valait l'achat. Donc.
Oui, il vaut l'achat, mais au moins pas que tu te dises, il y a encore des pages pourries à côté.
C'est vrai que, 4€, 24 pages, ça fait mal, mais...
Voilà. Donc non, très bien.
Ok, bien, on va passer à la partie Secret Invasion, avec le Secret Invasion numéro 7. Comme d'habitude, le premier épisode des deux, c'est le Secret Invasion numéro 7, scénario de Brian Michael Bendis, dessin de Lainil Francis Yu et ancrage de Marc Morales. Bon, c'est la méga baston, on va dire finale, même si c'est le 7 sur 8.
Ouais, parce que bon, le 8, je l'ai lu un peu en avant, j'ai craqué finalement.
Ouais, toi aussi, tu l'as lu, ça y est, donc.
Voilà. Donc c'est juste un épilogue, le 8, mais là, c'est vraiment la grosse baston finale, quoi. Ouais.
Bon, je voulais pas
mais
dire,
moi, j'ai bien aimé tout le déroulement, là, voilà, quoi. Moi, je trouve que ça conclut bien un peu... À part que le seul truc que j'ai trouvé, c'est que... En fait, ils auraient pu conquérir la Terre facilement, mais à partir du moment où ils ont annoncé qu'ils étaient là, c'était fini pour eux.
Mais voilà, c'est ça. Il n'y a aucun plan. C'est ça qui rend le crossover chiant, en fait.
Bah, c'est pas qu'il... Moi, j'ai adoré. Moi, je peux pas dire qu'il a été chiant. Moi, j'ai adoré... J'ai tout adoré, quasiment. Mais le seul truc, c'est que tu te rends compte de ça. Bon, fallait bien qu'ils trouvent une fin, une faille ou quelque chose, quoi. Sinon ils auraient gagné la Terre aux Skrulls, puis ça a été réglé. Mais c'est vrai que là, plus ils se mettent en avant, plus ils deviennent cons, puis plus ils se font battre, quoi.
Bah, je sais pas, ça vient peut-être du fait...
Alors qu'ils avaient toutes les cartes en main, qu'ils avaient tout, machin, etc. Donc je sais pas.
Hein. C'est peut-être le fait que je connaissais la fin depuis presque un an, que ça me paraissait chiant, quoi. Parce que moi j'attends plus l'après Secret Invasion que Secret Invasion.
Moi, comme je t'ai dit, moi Secret Invasion, je le redis et je le dis encore de nouveau, moi j'ai vraiment adoré, quoi. Alors peut-être que j'ai. Voilà. Moi tant que.
Peut-être parti pris pour Marvel, c'est tout.
De toute façon, jamais dit le contraire. Pas parti pris, c'est-à-dire que j'ai lu je lis ça depuis environ, ça va faire plus de 20 ans.
Ouais.
Donc c'est vrai que Marvel, je connais vachement plus que DC, quoi.
Ouais, moi
mais là,
aussi,
honnêtement,
malgré tout, hein,
parce tout que... le côté... ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien toutes les corrélations des personnages, le côté avec les méchants qui s'allient aux gentils pour une fois, etc. C'est un nouveau petit groupe de Fury. C'est des petits trucs que moi, je sais pas. Moi, j'ai adoré. Ou que la petite phrase de Spider-Man, genre, ouais, bon, bah, de toute façon, tu sais, là, y a rien de grave, on va gagner. De toute façon, on ne voit pas encore le gardien débarquer.
Ouais, mais ça, c'est ça, par contre. Ça, c'est le moment qui m'a fait mourir de rire.
Voilà, moi, j'ai adoré ça, parce que du genre, lui, en grand connaisseur, il fait, tant qu'il n'y a pas le gardien, pas de problème, tout va bien. Et quoi, page d'après, pleine page et tout ça, paf, le gardien. T'es là, ça fait, ah merde.
Alors là, moi, franchement, déjà, mention spéciale à Lenny Francisio, parce que il y a un boulot monstrueux pour toutes ces doubles pages remplies de personnages.
Ah, mais, puis c'est super bien foutu, quoi.
Ça me fait penser à du Georges Pérez de la grande époque, quoi, où le mec s'amusait à remplir ses pages de millions et des millions de personnes. Bah, quoi,
à mon avis,
le fait encore,
hein.
Il
s'est
fait
encore, largement ça. Plaisir là-dessus, quoi.
Ouais.
Il y avait de quoi faire, en plus jouer avec les, bah, le Skrull, Galactus, etc. Voilà, quoi. Même s'il n'a pas les pouvoirs de Galactus, heureusement.
Mais ça, pour moi, c'est ce qui sauve l'épisode, hein. C'est tout ce travail graphique qui sauve l'épisode, pour moi. Parce que,
au niveau
scénario, il n'y en a pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la baston.
C'est une énorme baston, mais de nouveau, il y a des petits trucs, c'est des petits détails, comme par exemple, il y a Jessica Jones qui mate ça à la télé, qui confie en toute confiance son bébé à Jarvis, puis Jarvis c'est un Skrull. Moi tu vois, c'est le genre de petits détails que dans l'histoire, bah oui, il y a pas vraiment de scénario, mais ces petits détails qui me font un peu ça me fait la chair de poule, puis en même temps ça me fait aimer tous ces épisodes, quoi.
Mais moi j'ai eu l'impression d'avoir manqué un truc. Alors c'est je sais pas, mais elle était où Jessica Jones?
Elle était dans la tour des Vengeurs, je crois. Non,
ah non, pardon, c'est moi, ma faute. Ok, je viens de me tromper, c'est que j'étais en train de me dire Spider-Woman, non, c'est Jessica Drew.
Voilà.
Ok, c'est bon.
Puis là aussi, on va. Une des grandes scènes aussi, c'est l'œil de Faucon qui récupère son arc, qui commence à tout balancer, quoi.
Ça, c'est bon, ça.
Tu vois, moi, c'est des petits trucs comme ça, alors oui, il n'y a pas forcément de scénario, oui, c'est une grosse baston
mais
avec
mais
des petits trucs.
C'est
des petits détails que je sais pas, mais. C'est des petits moments de geek.
Ouais.
Voilà, c'est des trucs que, depuis qu'il a remis sa tenue, là, je crois que c'est quoi, Ronin, je crois qu'il s'appelle,
ouais,
ou Samurai.
Ronin.
Ouais. Bah oui, bon bah ça enlevait un peu de charme. Mais là de nouveau, tu sais, quand il voit que je crois que c'est sa fille qui est blessée ou celle qui a pris son titre, hein, puis tu vois qu'il reprend son arc, voilà quoi. Après le truc qui m'a un peu moins touché, tu vois, c'est la guêpe.
Bah de toute façon, on se demandait, parce qu'il parlait d'une arme spéciale vis-à-vis de la guêpe, enfin qu'ils avaient un atout vis-à-vis, grâce à la guêpe, voilà, maintenant on sait ce que c'est, elle va exploser, quoi.
Oui, mais tu vois, moi, ça n'a jamais été un personnage vraiment préféré ou principal ou bah sa mort pour moi, c'est pas ni chaud ni froid, quoi.
Tu viens
d'en
dire.
Ça a l'air de toucher tout le monde, mais
tu viens d'en dire trop là.
Bah quoi, qu'elle crève.
Oui.
Bon, c'est pas Cyclope non plus.
Non, mais si tu veux, c'est que elle est prête à exploser à la fin du 7, c'est tout.
Ouais. Voilà. Bon, bah j'ai tout foutu en l'air. Désolé tout le monde, c'est un gros spoil. Il rajoutera des bips sur ce que je vais dire. Et sinon, faudra le fouetter lui.
Bon, bien sûr, ce sera de ma faute.
Comment déléguer.
Ouais, non, bah,
bon,
voilà.
Bon, ils sentent qu'elle va crever, quoi.
Ouais. Je sais pas, peut-être que le montage passera par là ou pas.
Il y a une super case aussi que j'ai adoré, c'est le bébé qui montre Jarvis Krull. Avec une tête d'apeuré avec les deux doigts qui le montrent. Alors, je sais pas s'il a voulu exprès cet effet comique.
Ben, moi,
mais je le trouve vraiment excellent.
Honnêtement, enfin, j'ai pas trouvé l'effet vraiment comique du truc. Enfin, ça m'a pas plus fait sourire que l'autre chose. À part
moi,
le coup de Spider-Man et de l'arc. Voilà.
Moi, ça m'a fait sourire parce que c'était vraiment le truc. Ben, la gravité du truc par l'image, ben, ça rend le truc ridicule, quoi.
Ouais.
Donc sourire dans le fait du genre, bon, ben, c'est un peu bête, quoi, ce genre d'image. C'est surtout les doigts du gamin, je crois, qui m'ont fait un peu. Enfin bon.
Ouais.
Mais bon. Moi, j'ai Secret Invasion, en tout cas, j'ai lu la fin là, et en tout cas, j'ai rien à dire. Moi, j'ai adoré, à part peut-être un ou deux épisodes que j'ai peut-être trouvé moins bons, mais jusqu'à là, non.
Bon, on en reparlera surtout le mois prochain, et ça fera l'occasion de faire un méga bilan, quoi.
Voilà, surtout. Ouais. Mais en tout cas, là, moi, je sais que ça m'a fait super plaisir de lire tout ça, quoi.
Ben ouais, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir autant de personnages d'un coup, le petit jeu de ah, tiens, lui, il est là. Bon, voilà, c'est tout. Et puis, sorti de là, non, enfin.
Mais t'es un ronchon, à pas Green Lantern ou Flash, t'aimes rien.
Je suis pas un fan des grosses.
Ou Jeff Jones aussi. S'il n'y a pas de Jeff Jones quelque part, t'aimes pas.
Hein. Oh non, c'est être médisant que dire ça, c'est pas vrai.
faut que tu lises plus de Jeff Loeb.
Mmh. Ah oui, bien sûr.
Et plus de Lee Field. À partir de là, tu peux que t'améliorer. C'est parce que t'as pas d'humour, c'est pour ça.
Ben oui, bien sûr.
Bah, Jeff Loeb, faut avoir un bon humour pour pouvoir le lire.
Faut être vraiment sous avant de lire, en fait.
Oh, une fois que t'as pris bourré, alors c'est incroyable. Hein.
Une fois que t'as pris une bonne biture, c'est bon, tu peux attaquer l'épisode de Hulk.
Non, moi je trouve qu'il a beaucoup d'humour, ce Jeff Loeb.
Ouais, pas moi. Mais bon. Enfin voilà quoi. Ok, on va passer au deuxième épisode, le Secret Invasion Frontline numéro 4. Le scénario de Brian Reed, les dessins sont de Marco Castillo, l'ancrage est de Gigi Studio. Bah, ça continue sur la même veine que ça a été lancé avec l'épisode d'avant. C'est-à-dire, voilà. C'est chiant.
Voilà.
C'est creux.
Moi, j'ai pas,
C'est creux.
Bah, le problème, c'est que je retrouve pas le côté Frontline là-dedans, quoi.
Moi non plus.
C'est-à-dire que moi, le côté de Frontline que j'aimais bien, c'était vraiment bah, pendant la... Le truc avec Hulk quand il était en guerre et tout ça, que il soit, si tu veux, un peu en planqué qui couvre tout. Là il couvre pas, il essaie de se sortir d'une situation un peu
moi j'aimais bien le Frontline de Civil War personnellement.
Bah aussi, mais là je sais pas, là ça avait bien commencé avec ces petites interviews des médecins, des machins, etc. Et puis là je sais pas, c'est moins bien.
Bah en gros, pour faire un petit résumé de l'épisode pour ceux qui l'auraient pas lu. Donc ils étaient perdus dans le métro, prêts à se faire tuer par un gang. Le gang leur dérobe tout. Ils arrivent à trouver le chemin vers une sortie. Et en fait, ils se retrouvent dans le bâtiment de Stark. Et ils se retrouvent tous ensemble dans le bâtiment de Stark.
Voilà.
Et puis finalement, lui et la gamine, enfin Ben Urich et la gamine s'en vont. Et ils assistent à la grosse bataille finale qu'on voit dans Secret Invasion 7.
Bah tu vois, moi je trouve que ça aurait eu plus d'impact pour moi, en tout cas le Frontline, qui voit déjà, tu sais, à place de courir dans les immeubles, dans les trucs du métro, etc., au moins qu'ils assistent à toute la bataille dans la ville. Depuis le début, qu'ils essaient de se planquer un tout petit peu, etc., de la baston, mais qui couvre tout. Là, j'ai l'impression qu'ils ont tout loupé de la baston, quoi. Oui. De tout ce qui s'est passé, ils sont un peu... Ouais, ils sont à part de l'histoire, quoi.
Même les monologues de Ben Urich sont lourds, quoi. Enfin, ça sent le forcé, c'est... Enfin, moi, personnellement, j'ai l'impression que Brian Reed écrit pour écrire, quoi. Parce qu'il faut remplir des cases. C'est l'impression que ça m'a donné à la lecture.
En tout cas, voilà. Moi, ça baisse un peu dans mon estime, la Frontline.
Ouais, c'est
mais bon, il n'y a pas grand-chose à en dire, quoi. C'est ça. C'est qu'il ne se passe rien.
Il se passe rien. Ok, bah donc on va passer au numéro suivant. Et c'est le Marvel Heroes numéro 22. On commence par le Mighty Avengers numéro 19. Scénario de Brian Michael Bendis. Dessin de Coy Pham. Ancrage de Danny Mickey et Alain Martinez. Donc un épisode spécial Captain Marvel. Avec le Captain Marvel d'une autre dimension qui était enfermé dans le truc de Reed Richards, que je ne connais pas du tout.
Voilà, c'est Marvel Boy.
Ouais, Marvel Boy. D'accord. Mais j'ai pas lu la mini-série qu'il y avait eu sur lui.
Alors moi je l'ai lu, mais il y a trop longtemps pour que je m'en souvienne. Je sais que j'avais aimé, mais alors je me souviens pas du tout.
Je sais même plus qui avait écrit ça. Je sais plus du tout. Bon, c'est pas grave. Moi personnellement, vu que c'est un personnage que je connais pas, j'ai pas vraiment d'attachement au personnage. Apparemment, il vient de Terre parallèle, d'après ce qu'il dit. Mais
Je crois pas te dire. Je t'ai dit, il faudrait que je le relise. En plus, je les ai pas à la maison là.
Ouais.
Il faudrait que j'aille les retrouver chez mes parents. C'est ça le problème d'en avoir trop.
Ça leur fait de la lecture.
Ouais, je suis pas sûr qu'ils les lisent, mais. Non, mais sinon, voilà. Bon, le Marvel Boy, là, en question, on le voit pas non plus.
Non, on le voit au début. Hmm on voit vite fait, en fait, avant son essai, son ta petite escapade de la prison, quoi.
Voilà, c'est plutôt sur le Captain Marvel Skrull, là, on va dire.
Ouais, le Skrull, qui sait plus s'il est un Skrull ou s'il est un Kree. Celui qui avait débarqué chez Norman Osborn.
Donc, comme quoi, leur conditionnement doit être super balèze, hein.
Hmm. Ou c'est peut-être la personnalité du Captain Marvel qu'il a eu qui est trop forte. Quoi qu'on voit bien que c'est pas la première fois qu'il y en a un qui sait plus s'il est Skrull ou s'il est...
Mais bon, à ce point-là, quand même, c'est assez, assez fort, on va dire.
Il est raté,
bon,
quoi.
Le côté Kree contre les Skrull, voilà, quoi.
Ouais.
Ça, toujours, ils ont toujours été quasiment en guerre et tout ça, ces deux peuples guerriers. On peut comprendre que le conditionnement a un peu loupé, quoi, d'un côté.
Ouais. Mais, enfin, en même temps, j'ai pas trouvé l'épisode super transcendant, quoi.
Non, bon, c'est bien. Moi, ce que j'ai trouvé bien foutu, c'est le côté où il sait plus où il en est, comment c'est fait. Comme c'est fait, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Si on suit ses pensées, ses doutes, ses machins, du genre, un coup il a un petit côté Skrull, l'autre côté après il écrit, puis à la fin, bon voilà. Ça j'ai vraiment trouvé excellent, vraiment super bien fait. Après, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça, ben, moyen.
Mais après, il y a aussi les dessins qui font que c'est pas top, quoi. Koipam, c'est toujours mieux que l'épisode de Boost qu'ils nous avaient fait avec Electra. Avec ouais. l'Electra petite vieille moche, là. Mais bon, c'est pas sans sas, quoi.
Bah, moi, quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça sympa. Après, quand j'y ai repensé, j'ai trouvé ça moins sympa. Tiens, sur le moment, il y a des trucs super bons à lire et tout. Mais après, ouais... voilà quoi, l'histoire générale moyen.
On reste sur la qualité de Mighty Avengers en fait quoi.
Voilà.
Ok. Ensuite on a Avengers The Initiative numéro 18, scénario de Dan Slott et Christos Engage, dessin de Steve Kerr et ancrage de Drew Hennessy. Ah bon, déjà c'est nettement mieux.
Ah bah ça c'est comme d'habitude quoi, ça tue.
C'est Initiative, c'est vraiment mieux. L'épisode est encore une fois bourré d'action. Ça,
mais bon, ça peut être cobré d'action vu que c'est maintenant c'est l'équipe pour tuer tous les Skrulls.
Ouais. Et ça bourrine dans tous les sens, quoi. Ça désingue du Skrull à tour de bras.
Voilà, avec quand même la sniper, là, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle comment, Cole ou un truc comme ça. Ou Cloud.
Je sais plus.
Voilà, j'ai un blanc là d'un coup. Donc non, puis en plus on retrouve les anciens membres du crew là.
Ouais.
Quoi, leur tête seulement.
Leur tête, ouais. Mais c'est vraiment une série sur laquelle ils se permettent beaucoup de choses quand même.
Mais ils se permettent, mais ils font bien les choses.
Ouais.
En plus, il y a le côté comics où il y a tout le monde qui commence à s'engueuler et le seul qui remonte le moral des troupes, c'est le Skrull. Genre, on a les défenseurs de la Terre, machin. Et ça, j'ai vraiment ça. Moi, j'ai trouvé ça très drôle, quoi.
Mais j'ai adoré la petite réflexion de Nick Fury qui disait ouais, je m'attendrais ça de la part d'un vétéran comme moi, mais d'un jeune comme toi. Je pense qu'il doit avoir des soupçons, le père Nick, là.
Ouais, mais en même temps, vu comme il se bat, puis comme il fait les choses, il n'y a rien à dire, quoi.
Ouais. Donc non, c'est excellent, quoi.
Donc non, puis en plus, avec l'homme fourmi que j'ai trouvé, bah...
Mais c'est pas celui de Robert Kirkman, ça?
Alors ça, je peux pas
de
dire.
De la série Redeemable Ant-Man. Parce que je pense, enfin, vu le costume, je l'ai pas lu, cette série, mais vu le costume, j'ai l'impression que c'est... Je sais pas si elle n'a pas été publiée en français, en fait. Hein. Mais bon, ouais, de toute façon, c'est celui qu'on voit dans l'initiative depuis le début, quoi.
Mais j'ai trouvé ça excellent, quoi. C'est l'espion parfait.
Ouais, le trouillard parfait.
Ouais, mais en même temps, c'est le trouillard qui sert d'espion, donc... non, moi bien.
Non, ouais, non, franchement, bon épisode encore une fois, et... non, c'est toujours un plaisir à lire, quoi. Donc là, ils vont devoir se séparer, et... pour aller détruire toutes les tours que sont en train de mettre en place les Skrulls. Mais surtout, leur téléporteur est pas très bien, disons.
Je crois même qu'il crève, hein.
Je sais pas s'il est mort ou pas.
Bah quand même, comme il parle à la fin, sa petite tirade, là, j'ai plutôt l'impression qu'il meurt.
Bon, en tout cas, à mon avis, il va pas téléporter les gens d'ici un bon bout de temps.
Peut-être que c'est aussi un comédien, hein.
Peut-être aussi.
Il dit des belles tirades avant de s'évanouir.
Je verrais bien ça pour Ant-Man, ouais.
Donc non, en tout cas, non, très bon épisode. Moi qui n'avais pas du tout l'initiative au début, bah là, ça change complètement ma vision.
Secret Invasion a fait du bien à l'initiative, en tout cas.
Tant mieux.
C'est une bonne chose, ouais, non, c'est bien, au contraire. On passe au troisième, c'est le Hulk numéro 7, donc la deuxième partie du Hulk 7 qui a été entamé le mois dernier, avec une histoire complètement différente. Scénario de Jeff Loeb toujours, dessin et ancrage de Frank Cho. Alors cette fois-ci, autant le mois dernier, on avait le côté Hulk classique, qui se retrouve à Las Vegas, tout ça. Et là, cette fois-ci, on a qu'est-ce qu'il advient du Hulk. Il s'apprête à se faire défoncer par She-Hulk qui décide de réunir un groupe pour aller partir à la chasse de Hulk. Puisqu'elle a toujours pas
encaissé. Évidemment, un groupe code fille.
Bah, bien sûr.
Évidemment, hein.
Et donc, à ce but-là, elle recrute Tundra et Valkyrie. Donc, des bons personnages bien oubliés.
Ouais.
Parce que tous les autres ont dit non, ils ont autre chose à faire.
Voilà,
parce qu'elle avait une très longue liste au début, mais en fait non.
Dont Tigra qui devait se laver les cheveux, et comme on en a beaucoup.
Ouais.
Donc non, de nouveau, il y a des petites touches d'humour quand même de Loeb. Ouais. Donc on voit que cet homme-là a de l'humour. Maintenant, pour le scénario, c'est un peu plus dur. Ou alors il fait vraiment le minimum possible, quoi. Ou il fait un maximum comme le mois passé avec où il met le plus possible dans un épisode, les Wendigo, Moon Knight.
Attends, dis le prochain, tu vas rigoler.
Non, mais tu sais ce que je veux dire. Oui, il fait beaucoup pour mettre le plus possible et que ce soit incompréhensible, ou il fait le moins possible.
Mais là, c'est pareil, je te dirais aussi, attends la prochaine partie sur les femmes et contre Hulk, et là aussi, tu vas beaucoup rire.
Bah, je crois que l'OB, en fait, il est destiné beaucoup à la... Faut qu'il se destine complètement à la télévision, quoi.
Faut qu'il fasse du one-man show, ouais. Ça risque d'être drôle.
Non, pas du one-man show. Je dis des vieilles séries un peu pas pourries, quoi. Mais, tu sais, pour les petits vieux, quoi. Des séries policières où ça flingue dans tous les sens, puis c'est tout. Moi, je vois ça plutôt comme ça. Des
sitcoms, ou... Un revival de Starsky Hutch ou Sheriff et moi peur, ça lui irait très bien, ouais.
Donc, genre, voilà, nickel. Ça. Alors ça, tu vois, il se prendrait pas la tête. Ça viendrait tout seul, à mon avis. De temps en temps, il mettrait un Hulk rouge. Donc non. Ou alors qu'ils revisitent les vieilles séries du genre Derrick, puis que Derrick se fasse tabasser, des trucs comme ça.
Ça va être difficile, hein. Alors Stapper t'es mort, hein, donc.
Oui, mais bon, tu sais, avec les images numériques maintenant, ouais. Tout est possible.
Ouais, enfin bon, ça reste un épisode de Hulk, donc pour moi c'est. Non, si même l'épisode était bon, j'hésiterais pas à dire que oui, c'est bon pour une fois. Mais voilà quoi. En plus j'ai lu les prochains.
Mais c'est comme je t'ai dit, autant le mois passé il avait fait beaucoup, autant, quand même trop, autant ce mois-ci il a vraiment fait vachement peu et trop peu.
Le problème ouais, c'est que...
Moi je continue si tu veux à rire tout seul en le lisant. Puis c'est des trucs franchement bah, comme le coup de Tigre, etc. J'ai trouvé ça très drôle. Mais c'est vrai qu'en tant que série même, voilà quoi, là, aucun intérêt.
Le truc c'est que là les épisodes sont partagés en deux parce qu'Ed McGuinness a du mal à tenir les délais. Donc on a la première partie qui est dessinée par Art Adams et on a la deuxième partie qui est dessinée par Frank Cho. Donc comme d'habitude on demande à Frank Cho ce qu'il sait faire, hein, dessiner des femmes.
Ouais, heureusement. Parce que les hommes, ça, c'est pas son truc.
Voilà, pas trop. Et bon, pour Hulk, ça va, il s'en tire pas trop mal, mais c'est juste un tas de muscles. Donc,
En même temps, voilà quoi.
Il peut lui mettre tu plein de rondeurs. Donc c'est cool.
Tu mets que des muscles, un peu de cheveux, puis c'est réglé quoi.
Et des dents. Faut pas oublier les dents.
Et des dents. Mais sinon c'est clair que bah, Frank Cho c'est les femmes quoi.
Donc voilà. Et puis alors déjà que je trouve que sur un épisode de 22 pages c'est pas bon. Sur deux épisodes de 10 pages c'est pas forcément mieux parce que bon voilà. Mais au moins l'avantage que ça a publié à la façon Panini, j'allais dire à la paninesque, mais pas très joli, c'est qu'on a que 10 pages par mois, donc c'est supportable.
Voilà, c'est 10 pages où tu peux rigoler un bon coup. C'est comme les gags en fin de magazine.
Non, mais disons, comment c'est 10 pages où tu te dis, bon, allez, sur un magazine du 96 pages que j'ai payé presque 5 euros. Allez, c'est que 10 pages de mauvais, quoi. Ça va.
Mais bon.
Bon, là, faut ajouter Mighty Avengers, qui est pas top, mais bon. Au moins, voilà.
Voilà. Là, ces temps-ci, Hulk, c'est pas terrible, depuis qu'il y a le Hulk rouge, puis bon, ben.
Et puis voilà. Le relaunch,
autant
quoi.
Voir le côté positif et se marrer un bon coup, que de voir le côté positif et pleurer.
Bon allez, encore, on est au 7 là, donc 8, 9, 10, 11, 12, ça fait 5 épisodes. 5 épisodes et il y aura peut-être du changement. Un peu.
Voilà.
Ça va dépendre si Panini publie tout ou pas.
Donc accrochez-vous à votre slip et encore pour quelques mois.
Ouais, ouais, ouais. Puis ça va dépendre de quand, à quel rythme il le publie surtout.
Voilà.
On va passer au dernier épisode du mag, hein. On va pas traîner sur Hulk. C'est Thor God-sized. Scénario Matt Fraction. Alors, au niveau des dessins, on a 4 parties. La première par Dan Brereton, ensuite par Doug Braithwaite, la troisième par Michael Red et la dernière par Miguel Angel Sepulveda.
Ouh, comme t'as mal prononcé Miguel Angel.
Bon, vas-y, prononce-le parce que ce sera mieux.
Bah, Miguel Angel, tu vois, c'est pas dur.
Ok.
Écorcher ce nom, tu sais que t'as pas le droit de le faire, hein.
Je sais très bien, pardon. Toutes mes excuses. Voilà. Là, ça se voit pas parce qu'il n'y a pas de cam, mais je m'aplatis.
Voilà. C'est comme si moi je t'appelais Stuart.
Ah ouais, je sais pas, j'ai pas fait espagnol moi.
C'est pas question d'espagnol, c'est que c'est mon prénom, bordel.
Ouais, mais je veux pas le prononcer à la française, moi je veux le prononcer à l'espagnol.
Bah, tu le prononces comme ça, sinon en espagnol c'est trop dur pour tes petites lèvres.
Ça fait quoi? Ça fait Miguel Angel.
Oh là là, horrible. Bon bah tu mérites de te lire tout le Hulk 5-6 fois de suite là.
Oh putain, oh merde. Bon, c'est bon, j'ai des vacances. Je ferai passer ça avec deux effets ralgans, ça ira.
Ouais, puis des coups de fouet, du vinaigre et des orties.
Sympa. Un peu de sel sur les plaies après.
Voilà.
Voilà.
Mais après les orties, hein.
toujours sympathique. Ça va. T'aurais pu torturer, hein. Comme Médusa, on en parlera tout à l'heure, comme Médusa, mais tu pourrais torturer toi aussi. Ok, on va revenir sur le Thor peut-être. Franchement, j'ai trouvé que c'était un très très bon épisode une fois de plus, encore une bonne production de Matt Fraction.
Alors moi j'étais déçu, mais c'est parce que je pense que c'est plutôt par le fait que j'attendais la suite du mois passé. Donc c'est peut-être pour ça que là j'étais un peu déçu, c'est-à-dire que je m'attendais à lire la suite, à en savoir plus, puis là d'un coup je me suis retrouvé avec un truc qui avait rien à voir.
Mais je trouve que Matt Fraction, Alors bien sûr, il a un côté un peu plus rentre-dedans que Straczynski, qui fait plus dans la longueur et dans les choses qui se posent, etc. Matt Fraction est plus sur le côté mythologique et guerrier de Thor et de l'univers de Thor. Mais pour moi, si quelqu'un devait remplacer Straczynski, ce qu'il va falloir bien trouver puisqu'il a décidé de quitter la série, en tout cas aux États-Unis il y a 2-3 mois déjà, je crois, je le verrais bien en remplaçant de Thor, quoi. Enfin, de Straczynski sur Thor. Je sais pas ce que t'en penses.
Bah, moi je te dis, là j'ai bien aimé. C'est juste le côté un peu déçu de pas voir la suite. Ça, ce qui m'énerve à chaque fois, quoi. C'est que t'attends la suite impatiemment, il y a un mois qui se passe et tu te retrouves avec pas la suite.
Déjà, j'ai beaucoup aimé avec un N, c'est très joli ça.
Donc en fait, ça veut dire que t'as pas aimé.
j'ai beaucoup aimé le découpage en 4, par 4 dessinateurs différents, avec chaque fois un point de vue différent. C'est-à-dire que la première partie, c'est vraiment sur Scourge, et sur toute sa légende, comment il est mort, etc. Et les parties suivantes, on a la première partie qui est plus centrée sur Baldur, enfin en tout cas, c'est Baldur qui est le narrateur entre guillemets. La partie avec Michael Red, c'est Loki, et la dernière partie c'est sur Thor, quoi. C'est Thor qui pense. Et ce découpage là je l'ai trouvé vraiment sympa.
Oh, puis le personnage je crois que c'était l'exécuteur en français, non?
Ouais, c'est ça.
C'est l'exécuteur, hein.
Executioner, ouais.
Moi je l'aimais bien, quoi. Il avait bonne tête, il tabassait bien.
Ouais, bah il est mort.
Bah il est mort.
Voilà. Il y a longtemps en plus.
Bon, en même temps, il y a tous les dieux Asgardien qui était mort, donc là c'est encore une possibilité qu'il revienne, hein.
Mais il était mort avant le Ragnarok, c'est comme son père, quoi.
Ouais, mais bon, tout est possible.
Enfin, lui il est vraiment mort depuis longtemps quand même, hein, parce que
ouais.
Sa mort remonte à Thor volume 1 361, donc ça fait un sacré paquet de temps, quoi. C'était la période Walt Simonson.
Oh, c'était une belle époque quand même, hein.
C'est les années 80, quoi, donc ça fait un paquet de temps qu'il est mort, celui-là. Enfin bon, dans les comics, jamais personne n'est vraiment mort, donc on sait jamais.
Ouais, c'est bien dommage.
Non, mais ouais,
Cyclope, faudrait qu'il crève une fois pour toutes.
Déjà mort, déjà revenu.
Ouais, malheureusement.
Non, enfin franchement, non, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé le truc excellent, quoi. Avec en plus le passage où Loki est un homme. Au début, je me suis dit, ça y est, Michael Red a déconné, il a foutu Loki en homme. Et après, on comprend pourquoi. Mais sur le moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi il est devenu homme d'un coup? Non, enfin, l'ensemble est vraiment bon, quoi. Ça permet d'avoir 4 visions différentes. Au niveau du style, et même si c'est qu'une seule et même histoire, quoi.
Non, bah ça, pour ça, il y a rien à dire là. La réalisation du truc, elle est vraiment super bien foutue. Mais bon, je reste toujours un peu déçu, comme je t'ai dit au début, quoi.
Ça a aussi permis de revoir le Thor avec le bandana.
Voilà.
Qui était pas resté très longtemps, et on comprend pourquoi, parce que je trouve que ça fait vraiment pas, quoi.
Bah ça fait vraiment cowboy, le dieu cowboy.
Ouais.
C'est plus le dieu du tonnerre, c'est le dieu cowboy.
Ouais, bon, pour ceux qui connaîtraient pas cette époque-là, justement dans l'épisode d'avant où ils étaient en enfer, c'est un petit peu expliqué dans la partie sur Scourge, il s'était fait défigurer par Ella, justement, donc c'est pour ça qu'il portait un bandana pour cacher son visage. Ça a duré, je crois, jusqu'au 300... Alors attends, ça c'était le 361, je crois.
Ouais, bon, en même temps, c'est un
ça
dieu guerrier,
367.
C'est un dieu guerrier, c'est pas un esthéticien.
C'est-à-dire qu'en fait, il est passé bandana, ensuite il s'est fait transformer en grenouille, il est devenu Froctor.
Ça, c'était sympa, je trouve.
Ça a duré 2 numéros, et après, en revenant, il avait juste une cicatrice, et après, il s'est laissé pousser la barbe.
C'est le pouvoir auto-guérisseur de la grenouille.
Voilà.
Tout le monde sait ça.
C'est pour ça. Donc c'est après qu'on a eu le Thor barbu.
Qui était pas plus mal, aussi.
Ouais. Donc non, mais non, franchement, ça fait plaisir de retourner à cette époque... En plus, dans la version US, on avait aussi le reprint du 361 avec la mort du... Ou 362, je commence à avoir un doute là. Non, c'est pas grave, avec la mort de Scourge, et ça fait plaisir de relire ça. Moi, personnellement, je l'ai relu en même temps. Ça faisait plaisir de relire des trucs de cette époque par Walt Simonson, quoi. Même si le Thor d'aujourd'hui est excellent, hein. Donc voilà, donc non, un très très bon épisode qui fait que le mag est plutôt pas mal entre Avengers et Thor, ça va.
Ouais.
Ça fait plus de la moitié.
Non, franchement, que
Thor, c'est un double.
Plus de la moitié. Après, il reste encore une moitié qui est pas terrible.
Ouais.
Mais bon, on va pas se plaindre.
Ouais. Ok, on passe au Marvel Icons numéro 52 maintenant. Comme d'habitude, 4 épisodes dans le mag. On commence par le New Avengers numéro 46. Toujours Brian Michael Bendis au scénario, dessin de Billy Tan et ancrage de Matt Banning. C'est un épisode centré sur Hood et son gang. De super vilain. Je sais pas s'il a un nom d'ailleurs pour le gang. Je sais pas.
Le gang. Non, je crois même pas qu'il a un nom. Ouais. Peut-être que je me gourre, mais en tout cas, ça m'a pas sauté aux yeux ni quoi que ce soit.
Donc on a une Madame Masque qui est prisonnière du Shield et qui se fait
défoncer.
Qui se fait défoncer, ouais, par des Skrulls au moment où Hood vient la libérer. Elle est quand même géniale, sa cape.
Ouais, mais là, je crois que c'est. Il y avait eu une sorte.
Une mini, ouais, sur lui.
C'était, ouais, c'était, ici c'est sorti dans le 100% Marvel, je crois que c'est où c'était dans Max, je m'en rappelle plus.
Alors moi je pourrais pas te dire pour la VF. La mini-série, je l'avais parcourue rapidement et j'en ai pas un gros souvenir en fait.
Bah moi j'ai bien aimé quoi. Bon, c'est, il t'expliquait pas grand chose, hein. C'était juste comment il chope la cape, etc. Qui sait vraiment. Et en fait c'est vraiment une petite frappe à la base quoi. C'est le type qui perdait tout, qui faisait des paris je crois et tout ça. Donc à la base c'est vraiment une petite frappe. Là il est quand même monté en grade peu à peu.
Il a pris de l'assurance aussi, ouais.
Bah disons que comme là on lit à la fin de l'épisode, on comprend pourquoi grâce à la cape il est super balèze quoi.
Ouais, alors ça non plus, ça c'est pareil, ça m'a laissé un petit peu sur le cul quoi. J'ai fait ah ouais, il est de retour. Bah,
moi je savais que c'était une sorte de démon qui était avec la cape, mais je pensais pas que c'était un aussi gros démon on va dire.
Donc attention spoiler, c'est Dormammu.
Voilà. Donc c'est pas non plus le petit joueur quoi.
Le copain de Doctor Strange.
Ouais, le meilleur pote.
Donc ouais non, là ça rigole plus quoi. Donc apparemment lui aussi avec sa cape il est capable de détecter les Skrulls.
Ouais, disons grâce au pouvoir du démon de la cape on va dire.
Voilà, on comprend mieux pourquoi maintenant.
Donc ouais non, moi j'aime bien ce petit côté qu'on regarde un peu les vilains, voir ce qu'ils font et tout ça.
Mais pour moi c'est les meilleures parties du crossover quoi. Les parties autour sont les meilleures parties quoi.
Mais toi t'as pas aimé Secret Invasion je crois.
Mais je vais pas dire que j'ai pas aimé. Je trouve le concept intéressant, juste mal développé et trop long. Mais c'est tout.
Moi je le trouve pas trop long. On refera le bilan le mois prochain.
Ouais, bien sûr. On vient de le faire.
Mais là, en tout cas, pour l'instant, non. Moi, j'adore. Et puis là, cet épisode-là, en plus avec les vilains et tout ça, terrible.
Ah ouais, là par contre, ouais, le tie-in est excellent, quoi. Quasiment tout en double page, en plus.
Et peut-être même un peu trop court, je trouve, à mon goût, celui-là.
Ouais.
Il l'aurait prolongé un poil plus, tu vois.
Mais je crois que le prochain est encore centré là-dessus. Hein.
Ouais, mais bon, une petite dizaine de numéros sur Hood et son gang, ça aurait été pas mal, quoi.
Bah, qui sait ce que nous réserve l'avenir.
Ouais, je pense qu'il va prendre de l'importance, quoi.
Il y a des chances, hein. Il avait déjà commencé à en prendre plein, mais là...
Bah là, avec Dormammu, on va dire qu'il est bien parti pour.
Ouais, donc non, un bon épisode, quoi. Un très très bon épisode, je trouve.
Bon, de nouveau, ça le nom de Vengeur que le nom.
Oui. Encore une fois.
Encore une fois, il n'y a pas un gramme de vengeur là-dedans.
Bah, des ennemis des vengeurs, quoi. Comme Madame Masque ou...
Ouais. Et encore, c'est plutôt Iron Man, mais...
Bah ouais, mais bon. Enfin, si Iron Man n'est pas un Avenger, je vois pas qui d'autre le serait, quoi.
Ouais, mais bon, on va pas tout mélanger non plus, monsieur.
Ouais. C'est vraiment par extension, quoi.
Parce que Madame Masque, elle s'affronte aux vengeurs, elle se fait défourailler la gueule.
C'est la même relation que Spider-Man et les Thunderbolts, quoi.
Voilà. Ouais. En pire, quand même. Ouais. Enfin bon non, moi j'espère que ça va continuer aussi d'être aussi bon. Même s'il n'y a pas de traces de Vengeur, je trouve que c'est pas plus mal que ça change un petit peu comme ça.
De toute façon, là il reste un mois de Secret Invasion, à mon avis, à partir de l'après Secret Invasion, ça repart. Hein. Enfin, d'ailleurs, c'est pas à mon avis, c'est, je sais que ça repart. Plus qu'un mois de petits trucs qui seront pas Avengers et puis ce sera bon quoi.
Bon, bah peut-être qu'ils auront une série à eux ou pas.
On verra, ouais. On verra ce que nous réserve l'avenir. De toute façon, pour ceux qui seraient pas au courant, il va y avoir un nouveau magazine après Secret Invasion. Donc avec des nouvelles séries.
Les bisounours au ski.
Je dirais pas le nom tant qu'on n'aura pas parlé du Secret Invasion 8. Comme ça, ce sera... Même si je pense que beaucoup sont déjà au courant.
Ouais, je pense.
Ouais, je préfère éviter. Il y a spoiler et spoiler, disons. Dans le doute. Bien, bon, on passe au Invincible Iron Man numéro 6. Scénario de Matt Fraction. Dessin et ancrage de Salvatore La Rocca. Fin de l'arc sur Ezekiel Stane. Comme le reste de l'arc, quoi.
Bah, très moyen, même voire un peu nul, quoi.
Encore que la série, je sais qu'elle repart à partir du numéro 7, puisque ça se passe après Secret Invasion, et je sais que la série va repartir mieux. Donc voilà, quoi.
Mais là, je sais pas, déjà l'ennemi, le fils de Badia, là. Bon, puis bon, bah, toute l'histoire, j'ai trouvé ça un peu nul. Les terroristes, bombes, etc. Puis bon, c'est trop facile à la fin, comme ils se défaitent tout. Donc d'un côté, voilà, je suis content que ça s'arrête pour qu'il y en ait plus, quoi.
Ouais. Ben non, mais après ça va partir bien quoi.
Oui, parce qu'il y a eu des moments bien avec Iron Man. Là, ça fait quelque temps que je sais que cette histoire-là, elle m'a saoulé, mais beaucoup.
Moi, c'est pareil. Franchement, j'ai trouvé ça longué. Et pas si intéressant que ça, quoi.
Bah voilà quoi. Disons que j'ai déjà vu Iron Man beaucoup mieux, quoi.
Le truc c'est qu'Ezekiel avait un bon potentiel par rapport à ce qu'il avait fait sur son corps, etc. Qu'il a quasiment plus rien d'humain, etc. Ça aurait pu être un bon ennemi plus sur la longueur, quoi. Mais là non, 6 numéros, ça fait petite menace classique des comics et on n'en parle plus, quoi.
Bon. Une balle dans la tête, ouais. Puis c'est réglé.
Voilà, exactement.
Mais je sais pas, non, bah là je suis content que ça se finisse.
Ouais, moi pareil. Donc un épisode voilà. À lire juste parce qu'on se dit waouh, cool, c'est la fin.
Voilà. Sinon, même pas besoin de chercher le reste. Hein.
Ouais. On passe au numéro suivant, Captain America volume 5, numéro 42. Scénario d'Ed Brubaker, dessin de Steve Epting et Luke Cross, ancrage de Steve Epting, Rick Meguiar et Fabio Laguna. Alors là aussi, ça va être le numéro spécial fin parce que c'est. Quasiment le gros chapitre de tout ce qui se passe sur Captain America depuis très très longtemps qui se termine. Enfin, qui se termine. En tout cas, on va pouvoir passer à une autre histoire, on va dire.
Voilà, avec Crâne Rouge, mais dans un des corps d'Arnim Zola.
Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça génial.
Bah, d'un côté, ça peut... voilà quoi, bah, c'est Crâne Rouge, quoi qu'il arrive, il survivra toujours quelque part, puis bon, voilà quoi, comme Arnim Zola. Hein. Mm. Mais non, l'épisode est bon. Moi, j'ai bien aimé tout ce qui s'est passé avant, tout le déroulement, comme ils ont développé l'histoire et tout ça. Donc non, bien. Il se passe pas de nouveau grand chose.
Ah, c'est beaucoup plus de l'action et du rentre dedans là.
Et puis bon, il y a beaucoup de sous-entendus du genre le fils de Sharon là qui est peut-être encore en vie, puis peut-être qu'il est en train de se développer tout seul. Là.
Ouais.
Et qu'est-ce donc,
que
on sait pas.
Et qu'est-ce que Sharon a vu dans la lumière.
Voilà, on va savoir.
Ah, on saura ça dans les prochains épisodes. Désolé pour le bruit des cloches, il y a des gens qui se marient à côté, donc voilà.
Quelle idée aussi de se marier. Les fous.
Là, j'ai aucun contrôle là-dessus.
Thriller qu'ils achètent des comics.
Et qui me les donne après. Non mais oh.
Bah, si ce type se marie, il a des comics, il peut te les donner directement. Hein.
Ouais. Ouais, je crois. Moi, par chance, ma petite femme, elle est cool là-dessus, ça va.
Non, parce qu'elle aime les comics encore, donc ça va.
Ouais, ça va. De ce côté-là, ça va. Bien, bah on passe au dernier épisode du Marvel Icons, c'est le Fantastic Four Cosmic Size, scénario de Cary Bates, dessin de Bing Canzino et ancrage aussi d'ailleurs. Alors c'est un truc, c'est un double épisode, donc on n'a qu'une moitié. Ouais.
Ouais, comme tu dis, ouais. Alors moi je trouve... C'est... Je sais qu'il y a des gens qui ont aimé ce genre d'histoire, moi je sais que...
J'ai préféré par rapport à ce que nous pond Mark Millar, hein, honnêtement.
Ouais, mais voilà, quoi. Moi j'ai l'impression de lire une histoire d'il y a 30 ans, quoi.
Ouais.
Ils vont dans un truc, ils prennent un truc, ils sont contaminés, oh non, c'est la galère, tout le monde devient à moitié méchant, ou sont...
Et ils s'engueulent, parce que c'est la spécialité des 4 Fantastiques, c'est qu'ils passent leur temps à s'engueuler les uns les autres.
Et voilà, puis je pense qu'à la fin, bah, ça sera comme une grande famille, oh désolé, on s'aime tous, bisous. Donc je sais pas, alors, c'est vrai que c'est plus sympathique que ce que j'ai lu les mois passés, là.
Bah, les histoires de pas, terres parallèles, machin, ça va quoi. Avec les Defenders du futur et tout, c'est bon quoi.
Je sais pas, là pour l'instant, moi ça m'a pas plu cette histoire là. C'est-à-dire le côté avec la plante, je sais pas, c'est nul quoi. C'est pas que c'est nul, c'est que c'est déjà du trop vu. Je sais pas, hein. Ça m'a pas buté quoi.
Bah, malgré tout, quand on y repense, les meilleures parties de Fantastic Four c'était les débuts, la partie avec John Byrne et la partie où il y avait un des membres qui était pas là quoi.
Ouais, mais bon, moi je demande pas de lire les trucs d'il y a 30 ans ou de reprendre les trucs comme avant, quoi. Tu sais, pendant Civil War, moi j'ai trouvé ça excellent, quoi. Toute la famille était séparée d'un côté.
Bah oui, quand il y a un des membres qui est pas là, au minimum.
Voilà, Reed Richards qui fait son truc, la chose qui était partie en France, il y avait qui, la femme invisible qui se planquait, puis je sais plus où il était, la torche, là.
Il était pas à l'hosto
Si, je crois qu'il était à l'hosto. Je suis plus sûr à 100%, hein.
Ouais. Je crois qu'il était à l'hosto parce qu'il s'était fait tabasser par des gens dans la rue, je crois. Alors, tu vois,
moi j'ai trouvé ça super bien parce que ça changeait du schéma habituel de la petite famille super balèze, que quand ils sont ensemble tout va bien. Là je sais pas, là j'ai l'impression que non. Je trouve ça un peu voilà. C'est le cas de Fantastique.
Ouais bah voilà. Ouais donc bah pas grand chose à en dire. Puis bon en même temps on n'a pas vu la fin de l'histoire, donc c'est toujours un peu plus difficile de juger. Même si bon là on a déjà une bonne idée de comment ça termine, vu que c'est du classique.
Bah bisous bisous.
Ouais donc voilà quoi, enfin, c'est bon.
Voilà, j'aurais préféré par exemple qu'ils mettent bientôt une sorte de la partie de poker de la chose avec les autres super-héros, puis ça sera réglé. Ouais. Ça, au moins, c'est un truc fun des 4 fantastiques.
Voilà. Mais c'était dans la série La Chose, quoi.
Voilà, mais là, ça fait partie aussi des 4 fantastiques. Ils pourraient le mettre maintenant.
Ouais. Mais il faut espérer que ça se reprenne vite.
Ouais, j'espère.
Tu veux la réponse?
Non. Parce que je m'a dégoûté encore.
Voilà. Donc bon. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. On va passer au dernier Mac qu'on va chroniquer ce mois-ci, et c'est le Marvel Universe numéro 16. Le Mac contenait donc une mini-série complète, Secret Invasion Inhumans, 4 épisodes, donc les 4 étaient publiés ici. Le scénario est de Joe Polaski, les dessins de Tom Rennie et l'ancrage de Scott Hanna. Par où commencer?
Déjà, pour commencer, on peut dire que c'est vraiment excellent.
Oui, déjà.
Voilà, puis là, c'est les Inhumains en grande, grande forme.
Déjà, ça fait plaisir. En plus, c'est un très très bon tie-in de Secret Invasion, même si les combats se passent un petit peu loin du front de la Terre, c'est relié vraiment parce que c'est constamment contre les Skrulls. On voit d'ailleurs qu'ils n'avaient pas envie que d'annexer la Terre, mais aussi la Lune. Donc non, mais c'est ouais, franchement, c'est une super mini-série, quoi.
Non, elle est vraiment excellente. Moi, j'ai rien acheté là-dedans. Moi, j'ai retrouvé redécouvert, on va dire, des persos que j'avais adoré puis que j'avais moins aimé dans les autres séries des Inhumains, genre Carnage, qui était un de mes
excellent.
Voilà, ça a toujours été un de mes persos préférés chez les Inhumains. Puis là, même Triton, que je trouvais un peu pourri à l'époque, là je l'aime bien.
Tous les personnages sont bien menés, quoi. Je trouve qu'il a les personnages bien en main. À part Médusa, qui m'a vraiment saoulé, je trouve qu'il a vraiment les personnages bien en main.
Médusa, c'est le rôle de reine, quoi, qu'elle assume.
Mais c'est son côté, en fait, un peu too much, quoi. Elle en fait vraiment trop, je trouve.
Je crois que c'est... Ça colle, moi, j'ai trouvé ça que ça collait vachement bien à elle, quoi. Ça m'a pas dérangé plus que ça. Oui, elle est énervante.
Ah bah oui, non, elle m'a énervé. Après, je dis pas que son rôle est pas bien, mais c'est juste qu'elle m'a gonflé, quoi. J'ai envie de lui mettre une carte.
Oui. Puis bon, on apprend plein de trucs. Oui. Flèche Noire était cocu avec un Skrull. Ça, faut le dire quand même, hein. Qui pardonne assez facilement.
Elle savait pas, c'est pas de sa faute.
Ouais, elle savait pas.
Oh, t'as la bite verte, mais c'est pas grave, c'est normal.
Moi, à la place de Flèche Noire, je l'aurais fait éclater la tête avec un petit murmure.
Ah, d'ailleurs, cette scène est hyper gore, mais excellente, quoi. La puissance, on voit vraiment la puissance de Black Bolt, quoi.
Bon, on comprend maintenant pourquoi il s'était fait fraquer sa tête par Hulk, quoi. En fait, c'était pas lui.
Voilà, ça explique aussi pas mal de choses.
Voilà. Non, mais tout est bon, quoi, là-dedans. C'est-à-dire les expériences sur Flèche Noire, Triton sur l'autre planète. Non, tout. Même la torture sur le Skrull que Médusa fait subir là avec les brumes, là. Moi, j'ai tout trouvé. Toutes les idées sont bonnes, quoi. De nouveau avec le retour des cris et tout ça. Non, tout bon. Franchement, moi, j'étais énormément surpris. Là, par exemple, je te dis, c'est Marvel Universe. Pour moi, c'est un des meilleurs magazines chaque mois, quoi.
Une fois encore, on voit Tundra, on voit qu'on essaie vraiment de la réimposer dans Marvel Universe. Hein.
Ouais, mais...
Enfin, dans le Marvel Universe, pas le mag, l'univers général, quoi.
Oui, mais sans vraiment la mettre complètement bien, hein, parce que là,
non, mais
on
elle
a
juste...
quoi, je crois, une page ou deux, même
ouais,
pas.
Ouais, c'est tout, mais c'est le fait qu'on parle d'elle pour la rappeler aux mémoires, quoi.
Ouais,
on l'a
mais
vu
bon,
dans Hulk, il y a quelques mois, on la voit aussi ce mois-ci dans Hulk, on la voit dans le Secret Invasion Inhumans, voilà.
Mais bon, c'était pas non plus un personnage super marquant à l'époque, quoi.
Ouais, ça va le devenir.
Ouais, mais bon, je sais pas. Moi, c'est pas ce qui me botte le plus, quoi. Peut-être que je dirais le contraire d'ici quelques mois, hein, mais... Bon, en tout cas, non, rien à dire. Rien à acheter là-dedans, que du bon.
En plus, ça a le mérite d'être un prologue à War of Kings. Ouais. Donc,
un beau prologue, quoi.
Qui va bientôt démarrer. Normalement, il y a un one-shot qui s'intercale entre les deux. Un one-shot qui s'appelle Secret Invasion War of Kings. J'espère que Panini le publiera. Parce que ça permet de faire le lien justement entre les deux du côté cosmique, quoi. Donc,
Peut-être dans le dernier.
Dans le prochain, peut-être, ouais.
Dans le dernier numéro de Secret Invasion.
Non, il y aura le Frontline.
Ah, du coup.
Ce qui manque un numéro.
Peut-être Frontline. Dans le Marvel Universe.
Ouais, dans le prochain, peut-être. Quoique, d'après ce que j'ai compris, le prochain c'est un spécial Nova, donc.
Bon, c'est pas plus mal aussi. Nova, c'est bon aussi. Hein.
Ouais, mais bon, j'ai envie de voir les Gardiens aussi.
Ouais.
Voilà.
Mais bon. Au moins, ils ont pas remplacé ça par une dope sans nom. Au moins, ils ont remplacé les Gardiens par un truc vraiment excellent. Quoi.
Je crois qu'ils auraient le potentiel, vu tout ce qui sort, et avec le crossover War of Kings et tout, je pense qu'ils vont bientôt avoir le potentiel de pouvoir faire deux magazines cosmiques.
Ouais, ou un, mais vraiment complet, ou au même titre que les autres on va dire que DC Icons ou DC quoi, putain, DC, je suis à la rue là. De Marvel Icons ou Marvel Heroes là.
C'est la fatigue, on arrive en fin de podcast, c'est la fatigue.
Voilà.
Mais ou alors ils vont nous faire des hors-séries de qui auront une base régulière quoi. Ce sera plus vraiment des hors-séries quoi.
C'est ça qui serait bien. Parce que là, honnêtement, tout l'univers, tout le côté cosmique a été vraiment mis au goût du jour, puis c'est vraiment bon quoi.
Bah, Abnett et Lanning ont vraiment fait un énorme boulot. Bon, même là, si c'est pas eux sur les Inhumains, Polaski, c'est vraiment, je sais pas, il a dû aller discuter, enfin, je sais pas, ou par l'intermédiaire de l'éditeur, ou j'en sais rien, mais en tout cas, c'est voilà, il y a déjà le petit prologue qui se prépare, tout ça, c'est non, c'est bien quoi. Donc, verra-t-on le mariage de Crystal et Ronan?
Super mariage avec son gros marteau.
Ouais, avec sa fausse gueule aussi.
Enfin, voilà quoi.
Puis bon, Lockjaw toujours. Toujours magnifique.
Non, franchement, là, j'ai vraiment du plaisir à toutes les revoir.
C'est vraiment bien foutu, quoi. Puis on voit que de toute façon, à la fin, ils se radicalisent, quoi. Les Inhumains ont décidé vraiment de se radicaliser et de devenir une force proactive plutôt.
Mais ils sont fait un peu jetés de tous les côtés, si tu regardes bien. Hein.
Ouais.
À chaque fois, ils s'en prennent plein la gueule pour pas un rond, puis ils sont super balèzes. Ouais. Parce que c'est vraiment un peuple, c'est tout ça. Tout le monde a des pouvoirs. Et ils sont tout le temps rétamés la gueule, ils fuient. Ben, d'un côté, je les comprends, faut arrêter de fuir maintenant, faut tabasser des gueules.
C'est ce que dit Medusa au début à Tony Stark, justement, qui lui dit qu'à chaque fois, ils veulent, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur foute la paix, et à chaque fois, dès qu'il y a un problème, ça leur retombe dessus alors qu'ils y sont pour rien.
Voilà, c'est donc, comme Hulk, mais en famille.
Bah, la Civil War, World War Hulk, voilà. Donc,
Non, mais c'est bien qu'ils se mettent un peu plus... qu'ils se mettent en place un peu plus, qu'ils se réaffirment, puis qu'ils disent bon maintenant ça suffit les conneries quoi, on peut tous vous tuer quoi.
Ce que je trouve balèze par contre, c'est qu'ils ont vite reconstruit la ville, alors qu'elle était complètement ravagée par l'invasion Skrull.
Bon en même temps, mais c'est comme je te dis, la main d'œuvre c'est tous des tous des gars avec des super pouvoirs, un type avec une super force, l'autre qui doit courir super vite, etc.
Au pire s'ils ont passé le super pouvoir, un petit tour dans la chambre quoi. Un petit tour dans la chambre et puis voilà.
Ça c'est juste dire quoi.
Ah mais bon franchement non, un super mag et si vous ne l'avez pas encore acheté allez-y parce que c'est vraiment un très très bon tie-in autant sur Secret Invasion que sur les Inhumains en général quoi. Bah ça conclut notre podcast pour Marvel. On se retrouve d'ici un mois parce que on fera pas de podcast DC cette fois-ci étant donné qu'on a décidé de prendre quelques petites vacances l'un et l'autre. Il y aura quand même des articles sur le site mais on fera pas de podcast parce que ça prend beaucoup de temps à préparer et ensuite à monter etc. Donc
et parce qu'on a aussi le droit à des vacances.
Oui aussi.
Surtout.
Oui, ça va faire du bien aussi. Voilà. Donc on se retrouve d'ici un mois pour le prochain podcast Marvel et la fin de Secret Invasion. Et d'ici là, bah, portez-vous bien.
Et bonnes vacances. That's entertainment. That's entertainment. I'd be happy to